Le message qui va suivre vous est présenté par l'église La Maison du Bâtisseur, avec pour orateur Luc Ondias, pasteur principal. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez richement édifié en Christ. Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter par téléphone au 04 65 60 56, par mail en nous écrivant à contact@lamaisondubâtisseur.com ou en vous rendant sur notre site internet www.lamaisondubâtisseur.com. Nous vous souhaitons une agréable écoute. Que Dieu vous bénisse.
Seigneur, et quand j'ouvrirai viens élever ta voix avec moi au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Lorsque l'Église se réunit quelque part, le lieu où elle est décrété ambassade, royaume, car le royaume des cieux est venu parmi vous. Et lorsque nous nous réunissons, nous sommes bien plus forts que 100 000 hommes. Par la puissance de la prière, nous pouvons renverser des murailles et des forteresses. Alors tous ensemble, d'un commun accord, d'une même voix, nous allons élever nos voix pour recommander tous les couples, tous les mariages de cette église ou attachés de près ou de loin à cette église. Toutes les personnes qui sont mariées, qui rencontrent des difficultés ou tout simplement qui sont en bonne santé. Nous allons prier que Dieu étende sa main sur tous les mariages de cette église, toutes les familles qui sont représentées ici et qui sont composées d'un mariage. Nous allons les recommander à la grâce divine et nous allons menacer celui qui vient pour détruire les mariages. Satan sait une chose, que lorsque deux personnes s'accordent sur la terre et qu'elles sont mariées, Dieu ne peut rien leur refuser. Voilà pourquoi il combat le mariage. Mais nous allons déclarer que si dans ce pays le mariage a été frappé, nous, l'église, la maison du bâtisseur, à partir de nous, le mariage va renaître dans cette génération au nom de Jésus-Christ. Alors tu vas élever la voix avec moi et tu vas appeler une onction de restauration et de guérison sur tous les mariages de cette église au nom puissant de Jésus-Christ. Et tu vas menacer celui qui détruit les mariages au nom puissant de Jésus-Christ. Élève la voix et recommande les mariages. Yemakata yemonda Roketayama Rukebrando Rokotaya Romakata reposte Romande Rukete sur ton mariage et celui de ton frère et de ta sœur. Mais nous allons annuler toutes les paroles qui ont été prononcées par un envoyé du diable sur ton mariage. Que ces paroles viennent d'un parent, d'un oncle ou d'un sorcier, peu importe. La Bible dit, Éphésiens 1 au verset 3, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions en Christ, dans les lieux célestes, en Christ. Alors nous allons décréter des paroles de grâce et de faveur et de bénédiction sur tous les mariages. Tu vas appeler la prospérité sur les mariages. Tu vas appeler la faveur et la fécondité sur les mariages. Tu vas appeler la grâce sur tous les mariages. Et tu vas annuler toutes les paroles qui ont été prononcées sur ton mariage et sur tous les mariages représentés ici. Quel que soit le sorcier, quels que soient les parents qui ont prononcé des paroles diaboliques sur les mariages, au nom de Jésus, si tu es membre de cette famille ou si tu es connecté à nous ce soir, ton mariage, nous allons décréter qu'il est béni et toute parole négative est annulée au nom puissant de Jésus-Christ. Élève la voix et profite. l'église, sur tous les mariages, au nom puissant de Jésus. Makatae, Rokatare Brosta. Tu vas élever la voix avec moi et nous allons prier contre tout esprit de stérilité. S'il y a bien une chose qui frappe les couples et les mariages, c'est l'impossibilité d'avoir des enfants. Mais nous allons déclarer que notre Dieu est le Dieu de la fécondité. Parce que tu es en Christ Jésus, tu ne peux pas être stérile. Et parce que tu as fait le pas de foi de venir assister à ce séminaire, je t'annonce de manière prophétique que si tu es marié, l'année prochaine, à la même période, tu auras un enfant au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous allons prier et nous allons briser toute forme de stérilité dans les seins maternels et dans les seins masculins. Toute forme de stérilité est brisée et nous appelons la fécondité sur tous les mariages représentés de près ou de loin ici. Et même celui qui écoute cet enseignement sur internet, si la stérilité t'avait frappé, aujourd'hui sois délivré et sois fécond au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut élever nos voix et briser l'esprit de stérilité au nom de Jésus-Christ? De te joindre à moi et pour prier pour toutes les personnes qui sont célibataires et qui aspirent à se marier. Nous allons simplement demander à Dieu que la faveur soit sur vous. À ceux qui sont encore dans l'attente sereine, que la grâce soit sur vous. Et à ceux qui ont ce désir dans le cœur, que votre désir soit justifié devant le Seigneur et que vous puissiez rencontrer la personne que le Seigneur a prévue pour vous au nom de Jésus-Christ. Alors nous allons simplement prier que Dieu se souvienne de toi et qu'il étende sa main, sa faveur et sa grâce sur ta vie. Et nous allons prier aussi que Dieu te donne le discernement de sorte que tu fasses le bon choix, car il s'agit de ta destinée. Qu'il n'y ait aucune erreur, qu'il n'y ait aucune erreur dans les choix qui seront faits et que nous puissions nous réjouir avec toi demain lorsque tu te marieras au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut élever nos voix et nous adresser à notre Père et qu'il bénisse toutes les personnes, les jeunes filles, les jeunes femmes et les hommes qui aspirent à se marier. Que Dieu déverse une faveur des mariages sur cette église. Nous voyons des cascades de mariages qui se font en Christ dans ton église, Père, au nom de Jésus-Christ. Faveur, faveur, nous appelons la faveur, nous appelons la faveur, nous appelons la faveur, nous appelons la faveur, faveur, faveur. Sur les mariages, tu étends ta main, Père. Tel est ce que nous demandons par la foi au nom de Jésus. À toutes les personnes qui ont reçu Jésus-Christ dans leur vie comme leur Seigneur et leur Sauveur et qui veulent s'unir, Seigneur, à la personne que tu as prévue pour eux. Parfois, ils ne savent pas comment prier ou comment, Seigneur, ô Dieu, faire monter cette requête vers toi. Ce sont simplement des soupirs qui s'expriment. Mais aujourd'hui, d'un commun accord, Père Céleste, nous te demandons exceptionnellement que tu étendes ta main sur les personnes qui aspirent à se marier et que tu leur donnes du discernement et de la sagesse et de l'humilité devant ta face afin que, ô Dieu Tout-Puissant, les mariages qui seront célébrés à l'avenir soient pour ta gloire, Père de grâce. Que la sanctification, la sainteté et la consécration soient attachées à tous les mariages, Seigneur, à venir et présents au nom de Jésus-Christ. Que la gloire, Seigneur, te revienne et que ta gloire apparaisse dans ton église au travers de tous les mariages, Seigneur, que tu auras bénis. Que toute la louange te revienne au nom puissant de Jésus-Christ. Nous scellons ces paroles que nous t'avons adressées dans le sang précieux de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, le Shiloh, l'étoile brillante du matin, le témoin fidèle, notre Seigneur et notre Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, assis sur un cheval blanc et sur le trône de la gloire. Il est, il était et il revient maintenant et à jamais. Maranatha, Jésus-Christ, est-ce qu'on peut célébrer Jésus-Christ? Est-ce qu'on peut acclamer bien fort le Seigneur et pousser un cri de joie vers le Seigneur? Alléluia. Merci, Père. Merci, Seigneur. Conduis encore ces moments, inspire ces temps et que toute la gloire te revienne maintenant et à jamais. Merci pour l'inspiration de ta parole. Merci pour ces moments de prière, de communion avec toi. Par ton esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer la présence du Saint-Esprit? Merci, Seigneur. Avant de t'asseoir, je voudrais que tu trouves au moins trois personnes et que tu leur dises: Excellence en Christ, je te souhaite la bienvenue à l'ambassade. C'est un privilège d'être là avec toi. Nous sommes en conseil des ministres et nous allons partager les affaires qui concernent le royaume. Alléluia. Dis avec moi, on est en conseil des ministres. Sauf que ce conseil est un conseil extraordinaire. Puisqu'il se fait en semaine. Alléluia. C'est une joie et un immense privilège pour moi d'être là avec vous. Je suis très très heureux. Je crois qu'on ne peut pas passer une année sans parler du sujet du mariage. Parce que c'est un sujet qui est très très important et il est important d'aborder ce sujet Et je suis très très heureux que le Seigneur nous ait conduits à organiser ces instants pour la simple et bonne raison que ça fait un moment qu'on prie pour ça. Et je crois que Dieu nous amène de gloire en gloire et que ce séminaire sera un moment formidable pour toi. Alléluia. Je t'assure, tu ressortiras d'ici à la fin de ce séminaire, tu ne seras plus la même personne. Amen. Amen. C'est bon? Monsieur Maniga, c'est bon? Ok, merci. Oui, tu ne ressortiras pas étant la même personne, je t'assure. Dieu va faire des choses extraordinaires. La clé de la libération, c'est la connaissance. C'est la révélation. C'est pour cela qu'il est important d'insister sur l'enseignement. La prédication proclame, l'enseignement explique. Amen. La prédication proclame, l'enseignement explique. Le problème avec beaucoup d'entre nous, c'est qu'on est beaucoup plus exposé à des prédications qu'à des enseignements. La prédication excite, elle fait du bien un instant, après ça s'évapore. Mais l'enseignement, il fait asseoir la vérité et c'est ça qui te libère. Amen. C'est pour ça que Jésus-Christ était un enseignant. Et ces séminaires extraordinaires que nous organisons dans l'année, ce sont des temps à part que l'on prend pour expliquer les choses souvent que les enfants de Dieu ont du mal à comprendre. Car si on comprenait ces sujets, eh bien, je crois qu'il y aurait moins de problèmes dans les familles. On peut parler du Saint-Esprit, on peut parler de beaucoup de choses, mais le mariage est tellement important parce que c'est tout simplement le choix de ta vie, c'est le choix de ta destinée. Personne ne se lève un matin pour aller épouser quelqu'un et dire après, et à peine il est épousé, il dit je veux divorcer. Tout le monde se marie pour la vie. Et pourtant, quand on voit les problèmes arriver dans les autres couples, quand nous ça va, on se dit ça ne peut pas arriver chez nous. Mais figure-toi que ceux qui ont des problèmes pensaient aussi que ça n'arriverait pas chez eux. Amen. Quand tu as le costume et que elle a la robe blanche et que vous êtes devant le maire à la mairie, vous ne pouvez pas imaginer que dans quelques années, vous vous retrouverez devant un juge en train de signer des papiers pour divorcer. Amen. Vous pensez que tout ira bien jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Eh bien, ce qu'il est bon de rappeler, c'est que le mariage est un produit qui a été créé par le Seigneur. Dis avec moi, c'est Dieu qui a créé le mariage. Et parce que c'est Dieu qui a créé le mariage, le Seigneur tient absolument à ce que ses enfants soient bien enseignés sur les choses concernant le mariage. Parce que le mariage, c'est un produit très particulier. C'est un produit qui, lorsque tu l'utilises mal, il te pète au visage et ça fait très mal. C'est pour ça qu'il est très important de comprendre de quoi il s'agit. Alléluia. Ce n'est pas juste parce que je suis pasteur de l'église que je dis oui, voilà, on va enseigner sur le mariage et puis me voilà devant vous en train de vous parler du sujet du mariage. Non, ce n'est pas juste parce que je suis pasteur. Quelqu'un d'autre dira aussi oui, mais il a l'air plutôt jeune. Alors, en quoi est-il légitime pour venir nous parler du mariage? Eh bien, tu sais, non pas parce que seulement je suis pasteur, ou bien parce que tu peux douter de ce qui va t'être dit pendant ce séminaire, mais c'est surtout aussi parce que, avec ma petite expérience de 11 ans de mariage, et en octobre 12, je pense que j'ai appris un certain nombre de choses. Alléluia. Amen. Et ce sont ces choses-là que je vais d'abord partager d'un point de vue naturel. Et après, bien entendu, par la grâce de Dieu, il y a aussi la révélation de la parole. Amen. Car Dieu parle aussi. Alléluia. Je ne suis pas ici pour qu'on ait tous des leçons de morale, etc. Je suis ici pour que tous ensemble, au travers de la parole, on puisse communier avec notre Père et que Dieu puisse nous parler, parler à nos cœurs. Alléluia. Beaucoup d'entre vous, vous êtes jeunes. Vous sortez avec des copains, des copines, des fiancés et vous voulez vous marier. D'autres, vous êtes en concubinage et vous voulez vous marier, mais vous éprouvez toutes sortes de difficultés pour vous marier. Que ce soit des problèmes personnels, des problèmes financiers, des problèmes familiaux, des problèmes spirituels ou autres. D'autres, vous êtes déjà mariés et vous rencontrez des problèmes dans vos couples. D'autres
n'y a pas de problème particulier. Mais vous aspirez à plus. Vous voulez expérimenter beaucoup plus avec le Seigneur dans votre couple. Amen. Alors, il est très important de comprendre ce que signifie le mariage. Dis avec moi le mariage. Et quand nous prenons le temps d'organiser ces moments, ben, c'est bien de nous mettre en condition. Bon, les femmes ont fait un travail magnifique. Je bénis le Seigneur pour les femmes de l'Église. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les femmes de l'Église? C'est joli tout ça. Maintenant, il y a quelqu'un, depuis qu'on est là, depuis 18 heures, il n'arrête pas de regarder ce lit et il se dit, mais pourquoi ils ont mis un lit sur l'estrade? De quoi il va nous parler, le pasteur? Eh bien, le lit symbolise simplement une partie importante de l'enseignement que nous allons aborder durant ces 4 jours. Alléluia. Il y a 3 choses très importantes dans la vie que l'on n'aborde pas suffisamment à l'église parce que ce sont des sujets qui sont devenus des tabous chez les chrétiens. Tellement les chrétiens sont devenus super spirituels que eux-mêmes ils ont banni certains sujets de l'église plus par peur que par spiritualité. Ils pensent que c'est spirituel de bannir certains sujets, mais en fait c'est parce qu'ils ont peur. Le premier, c'est l'argent. C'est pour cela que dès que quelqu'un parle de l'argent, ils lui tirent dessus, et pourtant ce sont eux les plus fauchés. Le deuxième, c'est le pouvoir ou encore la politique. Ils ne veulent pas qu'on en parle dans l'église, mais pourtant dès qu'ils rentrent chez eux à la maison, ils allument la télévision et ils sont des passionnés des sujets politiques. D'accord? Et le troisième sujet, c'est le sexe. Dès qu'on parle de sexe à l'église, tout le monde devient bizarre sur sa chaise et on commence à se regarder les uns les autres. Mais pourtant, dès que le culte est fini, les jeunes commencent à draguer les petites dehors. Quand on est à la maison, on aime bien regarder certaines scènes dans certains films, etc. Mais par contre, dès qu'on arrive à l'église, on joue les super spirituels et on ne veut pas parler de sexe. Dis-moi, on va parler de sexe. Dis encore, on va parler de sexe. On va parler de sexe. Psst. Assure-toi, on va parler sexe avec le Seigneur. Voilà. C'est pas ma chair qui va parler, rassure-toi. C'est le Saint-Esprit qui va te parler. Je t'assure qu'après ce séminaire, tu vas réfléchir à 2 fois avant d'aller te marier avec n'importe qui, avant d'aller sortir avec n'importe qui et même avant d'aller coucher avec n'importe qui. Tu vas dire, Seigneur, là, je décide de me consacrer parce que ce que j'ai entendu là, ça, c'est trop grave. Alléluia. C'est pour cela que la Bible parle de mystère. Parce qu'il y a des secrets cachés derrière, souvent qu'on ne comprend pas. Alléluia. Et bien entendu, dans le cadre de ce séminaire, nous voulons terminer par un gala le vendredi de la semaine prochaine, pour la simple bonne raison qu'on trouve qu'il n'y a pas suffisamment de moments comme ça où les couples chrétiens peuvent sortir. Et beaucoup de couples chrétiens, certainement des Gabonais, passe trop de temps à la maison. Pourtant, la jeune demoiselle, quand tu l'as rencontrée, tu l'as courtisée, tu l'as draguée, tu lui as fait les beaux yeux, tu l'as invitée dans des restaurants, etc. Maintenant, quand vous êtes mariés, c'est comme si on dirait, tu veux plus, vous êtes juste ensemble, c'est tout. À la maison, quand elle dit chérie, sortant un peu, il n'y a pas l'argent, etc. Tout le temps des excuses, mais tu sais, ce n'est pas parce que vous êtes marié que tu dois arrêter de faire ce que tu avais commencé. Au contraire, tu dois redoubler même. Tu dois redoubler. De sorte qu'elle reste toujours cette jeune femme que tu as rencontrée dans la rue là, quand elle te narguait. Là. Hein? Elle t'a fait galérer pendant 3 ans pour te donner son numéro de téléphone. Maintenant que tu l'as eu, tu joues maintenant les deux. Hein? Mais rassure-toi, on va parler de ces choses-là aussi. En tout cas, inscrivez-vous au gala. Ça va être bien. Il y a des petites surprises qui sont prévues. Il y aura de la musique, il y aura du rire. Il y a beaucoup de guests là qui vont venir et il y aura surtout un excellent repas. Voilà. C'est pour cela qu'on t'a demandé de ramener 30 000 pour vous deux. Parce qu'on ne va pas te faire manger les choses du maquis. On va te faire manger les bons repas. Lumière tamisée, tout, tu seras avec ta dulcinée, ta madame et ton chéri. Et puis, je n'en dis pas plus. Alléluia. Inscrivez-vous seulement. Amen. Invitez des amis, inscrivez-vous. Pour votre gouverne, nous avons, la dernière fois que nous avons organisé le gala des couples, c'était il y a 2 ans, je crois, quelque chose comme ça. Avec mon épouse, on avait eu l'idée de le faire, juste le faire. On avait communiqué en radio, en télévision. Et la moitié des couples qui étaient venus, c'était des non-croyants. D'accord? Donc c'était assez particulier. Et c'était dans un hôtel de la place. Et ce qui était fort, c'est que on a parlé du sujet du mariage et tout, mais on ne savait pas que dans la salle, certains couples qui étaient venus avaient de gros soucis entre eux. L'un des couples, le garçon sortait de prison. Ils sortaient de prison et puis ils ont vu l'annonce sur internet. Même si c'était chrétien, ils ont eu envie de sortir et ils sont venus. Et durant la soirée, on faisait des petits jeux de rôle. Et avec ces jeux de rôle, le garçon, par exemple, pouvait tomber sur « Faites une déclaration d'amour à votre femme », ce genre de choses. Voilà. Et il y avait des larmes qui coulaient. C'était très, très émouvant. Hein. Un autre couple était en train de divorcer, je me rappelle. C'est ça, non? Un autre couple était en train de divorcer et des amis, ne voulant pas qu'ils divorcent, les avaient invités à cette soirée-là. Et lors de la soirée, pendant toute la soirée, déjà, ils ne voulaient pas se parler parce qu'ils étaient vraiment en froid. Hein, tu vois les choses des blancs, là, ils sont en froid, ils ne se parlent plus. Mais malheureusement pour le monsieur, il est tombé sur « Mettez-vous à genoux par terre et faites une déclaration d'amour à votre épouse. » Donc au début, il ne voulait pas, mais tout le monde dans la salle te regarde, « Frangin, tu fais quoi ?» Le voilà en train de faire la déclaration d'amour à genoux à son épouse et elle se met à fondre en larmes et depuis ce soir-là, ils n'ont jamais divorcé. Et à l'heure où je parle, ils sont toujours ensemble aujourd'hui. Amen. C'était une excellente raison d'organiser cette soirée. Ils ne sont pas en Christ, mais chaque fois qu'ils me croisent dans la rue, ils me disent « On n'oubliera jamais cette soirée » parce que c'est lors de cette soirée qu'on a été réconciliés. Maintenant, je prie qu'ils viennent à Jésus-Christ. Alléluia. Donc, j'espère que tu seras là. Tu peux amener les parents aussi. Hein? Voilà. Si tu vois que ton papa, depuis un certain temps, là, il ne fait pas trop sortir ta maman, tu prends un petit billet et puis tu leur payes la place et puis tu leur donnes. Tiens, papa, invite un peu maman. Je vais garder les enfants aujourd'hui. Va sortir avec maman. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer la présence du Saint-Esprit? Voilà. Je voudrais que tu prennes avec moi ta Bible. On va aller droit au but. Aujourd'hui, on est jeudi. Je n'ai pas envie de trop traîner. On va aller droit dans l'enseignement. Livre de Éphésiens. Livre de Éphésiens. Il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet du mariage. Et je crois qu'un séminaire de 3 jours ne suffira pas à tout dire. Mais on va essayer de dire ce qu'il faut par la grâce de Dieu. Livre de Éphésiens au chapitre 5. Livre de Éphésiens au chapitre 5. Nous allons lire à partir du verset 22. Si tu y es, dis Amen. Si tu n'y es pas, dis attends. Je n'ai entendu personne. Non, là tu triches parce que tu regardes au mieux. Éphésiens chapitre 5, au verset 22. C'est bon, tout le monde voit. Ça va? Je te demande d'être très très attentif parce que ce que je vais commencer à dérouler à partir d'aujourd'hui jusqu'à dimanche, c'est très important pour ta vie. Donc ne rate rien. Et même tout ce que nous faisons là est enregistré en audio et en vidéo. Assure-toi d'aller réécouter ça à tout prix et de le donner à ton entourage. Éphésiens chapitre 5 au verset 22. Il est écrit ceci. Femmes, dis avec moi femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes. Dis avec moi, Marie, aimez vos femmes. Comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Dis avec moi, ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Alléluia. C'est un sujet très très important. Ce qui est dit ici est très très profond. Je vais vous le lire dans la version de la Bible Parole Vivante, car cette version est encore bien plus explicite. Il dit, vous épouse, dis avec moi épouse, apprenez à vous soumettre à votre mari et à le servir comme vous le faites pour le Seigneur. Le mari est le chef de la femme comme le Christ est le chef de l'Église, aussi bien qu'il est le sauveur de son corps dont il assure la vie. Et comme l'Église se tient dans la soumission volontaire au Christ, de même, la femme doit conserver en toutes circonstances, dites-moi en toutes circonstances, cette position vis-à-vis de son mari. Pour les maris, cela implique qu'ils portent à leur épouse le même amour que celui dont le Christ a aimé l'Église. Il s'est sacrifié pour elle afin de l'amener à une vie pure et sainte. C'est pour cela qu'il l'a mise à part, consacrée, purifiée, lavé à grandes eaux en lui donnant sa parole. Il a voulu que cette église soit placée à ses côtés comme une fiancée resplendissante de gloire et de beauté, sans une tache, sans une ride, sans aucun défaut, sainte, digne de Dieu et irréprochable. Oui, c'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme. Au fond, pour un époux, dis avec moi époux, aimer son épouse, c'est aimer son autre moi, donc s'aimer soi-même. Or, personne n'est si insensé qu'il haïsse son propre corps. Au contraire, chacun le nourrit de son mieux et l'entoure de soins. C'est exactement ce que Christ fait pour son Église, c'est-à-dire pour nous. Ne sommes-nous pas les membres de son corps, os de ses os, chair de sa chair? C'est pourquoi l'homme délaissera père et mère pour s'unir à sa femme et les deux ne feront plus qu'un seul être. Le mariage est certes un grand mystère, mais derrière ces paroles se cache une vérité encore plus profonde, l'union du Christ et de l'Église, dont la réalité humaine n'est que le symbole. Quoi qu'il en soit, sur le plan humain, que chaque mari parmi vous aime sa femme comme son propre moi, que chaque épouse estime et respecte son mari. Que quelqu'un dise Alléluia.
Alléluia.
Ah, c'est un texte qui est riche. Quelqu'un, quand certains lisent ça, ils disent, pasteur, ça là c'est beau, mais c'est dur. C'est pas si évident que ça. Hein? Pour moi, il y a beaucoup de passages dans la Bible qui parlent du mariage. Beaucoup de passages dans la Bible que l'on peut prendre dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament pour pouvoir parler du sujet du mariage. Mais pour moi, c'est ce passage-là qui est le plus fort. C'est ce passage qui est le plus fort parce que ce passage nous résume simplement comment l'un et l'autre doivent se comporter dans la maison. Alléluia. Maintenant, quand j'ai lu ce texte, parce que j'ai pris des jours et des jours pour méditer sur le sujet, j'ai déjà dit beaucoup de choses sur le mariage, puisqu'on a déjà fait des séminaires précédents sur le mariage. Au début, je me suis dit, bon, est-ce qu'on répète ce que nous avons dit? Ou bien, est-ce que Dieu, tu me montres encore autre chose? Le Seigneur m'a fait comprendre que je vais te montrer autre chose. Parce que c'est riche, le mariage. Donc, là, nous sommes sur le tarmac. L'avion est en train d'avancer en bout de piste. Nous n'avons pas encore décollé. Bientôt, on va mettre les gaz. Alléluia. C'est pour cela que je te demande toute ton attention. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce texte. Mais le sujet qui nous réunit ce soir, c'est que le mariage est un mystère. Dis avec moi, c'est un mystère. Si la Bible que tu lis tous les jours te dit que c'est un mystère, arrête-toi et t'engage pas dans le mariage sans avoir compris le mystère. Nous, on se laisse aller par nos émotions et nos pulsions. On voit le copain, on voit la copine, tout le monde est beau, tout le monde il est gentil. Et puis on se dit, on va y aller. Non, mon ami, t'engage pas dans cette histoire si tu n'as pas compris la chose là. Parce que Jésus-Christ a donné un tout petit aperçu de ce qu'était le mariage. Et la Bible nous dit dans les évangiles que les disciples lui ont dit, mais qui peut donc se marier? Parce que cette histoire-là, ça a l'air d'être compliqué. Hein? Et Jésus-Christ leur dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. D'accord? Rendre ton mariage heureux, ça t'est totalement impossible. Tu ne peux pas rendre ton conjoint heureux. Tu ne peux pas lui donner tout ce qu'il veut. Ce n'est pas possible. Le problème commence quand toi, tu essaies de le rendre heureux. Ou bien quand tu essaies de trouver tout ton bonheur au travers de ton conjoint. Tu ne peux pas. C'est Dieu qui peut le rendre heureux. Et comment Dieu peut le rendre heureux? S'il fait ce que la parole lui dit et si toi, tu fais ce que la parole te dit de faire. Quand les deux sont en harmonie avec la parole, là, vous pouvez être heureux. Mais tu ne peux pas rendre ton conjoint heureux. Parce que c'est un être humain. Il n'y a que Dieu qui peut satisfaire totalement un être humain. Tu ne peux même pas aimer Dieu. Même quand tu dis, Seigneur, je t'aime, Dieu te regarde, il fait menteur, menteuse. On ne peut pas aimer Dieu. Car une seule personne a réussi à aimer Dieu, Jésus-Christ, à la croix, par son sacrifice. Toi, tu peux mourir pour Dieu, comme Jésus-Christ est mort pour lui? Je ne sais pas. Donc, cette histoire de mariage-là, c'est un mystère. Je vous assure que moi, il y a certaines choses, si je les avais comprises avant d'entrer dans mon mariage, certainement j'aurais repoussé mon mariage de quelques mois. Mais Dieu connaît toutes choses, n'est-ce pas? Et Dieu nous enseigne au fur et à mesure que l'on grandit avec lui. Dis avec moi, le mariage est un mystère. Que veut dire mystère? Le mot mystère ici vient du grec mysterion, qui veut simplement dire secret caché. Hein? Secret caché. Quelque chose qui est couvé et quelque chose qui ne peut être découvert que si Dieu le veut, si Dieu te le permet. Donc, si tu sais qu'il y a une saison dans ta vie qui s'appelle mariage et que cette saison va déterminer toute ta destinée, tu as plutôt intérêt à t'arrêter, à méditer ta Bible, à aller à tous les séminaires possibles pour comprendre le sujet du mariage et à prier pour comprendre cette histoire-là et être sûr que tu es sur la bonne voie. Alléluia. C'est pour cela que si tu connais quelqu'un qui est sur le point de se marier ou bien qui est en concubinage ou qui sort avec quelqu'un et ça devient sérieux la relation, invite-les vite au séminaire. Ou bien s'ils ne viennent pas au séminaire, assure-toi de prendre les audios et d'aller leur offrir. Moi, je connais un couple. À l'époque, j'étais en France à Tours. Et ce jeune homme que je connaissais très très bien sortait avec une femme et ils avaient même un enfant ensemble. Et un soir, il est venu chez moi et j'étais en train d'écouter un enseignement sur mon poste radio. C'était sur le mariage et puis quelques paroles l'avaient touché et il avait demandé à ce que je lui passe les CD. Parce qu'il disait, je vais absolument écouter tout le séminaire que tu es en train d'écouter. J'ai dit, ok, gloire à Dieu, moi je l'ai déjà écouté, donc tu peux le prendre. Oui, comme ça, je vais aller écouter ça à la maison avec ma copine. Il est parti à la maison avec sa copine, pensant que ça allait faire du bien à son couple. Je vous assure, ça a vraiment fait du bien à son couple. C'est la raison pour laquelle la fille a dit, je ne veux plus, je m'en vais. Parce que la fille, après avoir écouté tout le CD, elle a dit, certainement, je ne t'épouserai pas. Je suis en train de me tromper, en fait. La parole était arrivée et la parole leur avait ouvert les yeux et ils se sont rendus compte, elle s'était rendue compte qu'elle était en train de faire le mauvais choix. Alléluia. Mais rassure-toi, la révélation de la parole, elle restaure aussi, elle réconcilie aussi, elle unit aussi. Elle ne fait pas que séparer. On n'est pas ici pour séparer les gens. On est ici pour unir les gens. Amen. Donc c'est un mystère. C'est un mystère qu'il faut comprendre. Je vais d'abord poser quelques fondements. Il y a une chose déjà premièrement qu'il faut savoir, c'est que au regard de ce que nous venons de lire, si tu regardes bien le texte, l'homme a une responsabilité bien plus lourde que celle de son épouse. Parce que la femme, on dit juste au début, femme, soyez soumise à votre mari, point. Mais après tout le long texte là, ça reste que sur l'homme. Pourquoi? C'est comme si la responsabilité du bonheur dans le mariage repose plus sur l'homme que sur la femme. Tu vas comprendre pourquoi, je vais t'expliquer. Au regard de ce texte, au regard de la parole de Dieu, le mariage, d'autre part, revêt une dimension naturelle et une dimension spirituelle. Il y a une dimension naturelle dans le mariage, une dimension physique, et il y a une dimension spirituelle. Le plus souvent, on a plus conscience de la dimension naturelle, mais très peu de la dimension spirituelle. On se laisse aller à nos émotions, à nos pulsions et à l'amour que l'on a l'un pour l'autre, mais on ne discerne pas la portée spirituelle de ce qui s'est passé quand vous vous êtes unis. Et quand les problèmes surviennent, on reste concentré seulement sur l'aspect naturel, sur le mal qu'elle m'a fait, etc. Mais on ne comprend pas spirituellement ce que Dieu attend de nous. Amen. Si tu es avec moi, fais comme ça. Les deux dimensions, spirituelle et naturelle, doivent être comprises si on veut réussir son mariage et son foyer. Surtout la dimension spirituelle qui est un grand mystère. Parce que si tu regardes bien le texte que nous avons lu, femmes, soyez soumises. 1. 2. Marie, aimez vos femmes. 3. C'est un grand mystère. Et il y a deux dimensions là qu'il faut comprendre. Et tu dois absolument comprendre ces deux dimensions si tu veux progresser dans ton mariage. La dimension spirituelle est un grand mystère par rapport à la relation de Jésus et de son épouse l'Église. C'est pour ça qu'il nous dit que tout comme Jésus-Christ a aimé l'Église, toi aimes ta femme pareil. Ça, c'est naturel ou c'est spirituel ça? C'est spirituel. Sauf que la manière dont Jésus-Christ a aimé son Église là, jusqu'ici là, tu ne comprends toujours pas. Même quand on t'a fait Jésus-Christ en sang sur la croix, tu dis, je ne suis pas prêt peut-être à mourir pour cette femme là. Mais tu vas comprendre pourquoi. Alléluia. Donc, quelqu'un qui veut se marier, particulièrement un homme, il est dangereux pour lui de s'engager dans le mariage s'il ne comprend pas la dimension spirituelle de la chose. Car le mariage est très spirituel. Le mariage, ce n'est pas juste aller coucher ensemble un soir. Je t'assure, quand tu vas te marier, pour ceux qui sont déjà mariés, ils savent de quoi je parle. Quand tu vas te marier, tu vas te rendre compte que le mariage ne se limite pas seulement au sexe. C'est bien plus que cela. Si tu te maries parce que quand vous couchez ensemble, c'est très bien. Mais quand vous aurez 70 ans, vous allez faire comment? Hein? Parce qu'à cette saison de la vie-là, les relations sexuelles, c'est plus trop ça, hein, en général. Bon, je ne sais pas, je me trompe. Ou... Bon, je n'ai pas encore 70 ans, excusez-moi. Donc, tu dois comprendre la dimension spirituelle de la chose. C'est très, très, très important. Amen. Et aujourd'hui, pour introduire sur le sujet, je vais nous parler de la dimension spirituelle et de la dimension naturelle. Et tu vas comprendre pourquoi Paul dit à la fin que c'est un mystère. Amen. Si tu es avec moi, fais comme ça. Dans le mariage, il y a un ordre. Dis avec moi, il y a un ordre. La Bible nous dit dans Corinthiens que Dieu est un Dieu d'ordre. Dès qu'il y a du désordre, Dieu n'est plus là. La grâce ne peut plus couler. Le conflit ou encore les problèmes surviennent dans le couple quand l'ordre divin n'est pas respecté. Amen. Paul nous donne un ordre. Quand il nous explique le mariage, il dit 1. Femme, soyez soumise à votre époux. Maintenant, c'est toute une science, hein, la soumission à son époux. Là. Il faut comprendre cette histoire-là. On ne parle pas d'esclavage ici. On parle d'autre chose. Deux, Marie, aimez vos femmes. D'accord? Donc, il y a un ordre que Dieu a donné. Dieu crée toutes choses pour un but. Dieu ne crée jamais quelque chose juste pour le fun. C'est Dieu qui a créé le mariage. L'homme, quand il a été créé dans le jardin d'Éden, Dieu lui avait demandé de travailler. Il était en train de travailler. En apparence, il n'avait besoin de personne. Mais sache que quand Dieu te regarde et Dieu te dit, il n'est pas bon que tu sois seul, je vais te faire une aide, sache que cette parole-là, elle ne vient pas de Dieu. Elle vient de l'homme. Sauf que c'est une parole qu'il n'avait pas exprimée. Dieu l'a vu dans son cœur et Dieu l'a exprimé. Il n'est pas bon qu'il soit seul. C'est pour ça que quand Dieu amène les animaux ensuite, il ne trouve pas ce qu'il cherchait. Et quand il voit la femme une fois réveillée à nouveau, puisqu'on l'a endormie, on l'a tirée de la côte, on l'a réveillée, il a dit, voici enfin celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Ça veut dire quoi? Qu'il était en train de chercher quelqu'un. Tout en travaillant, il cherchait une aide. Ainsi, tout homme dans sa vie, au bout d'un moment, a besoin de trouver cette aide-là qui va l'aider à progresser vers sa destinée. Alléluia. Mais il y a un ordre qu'il faut respecter. Et cet ordre-là, femme, soyez soumise, mari, aimez vos femmes. Donc, cet ordre-là nous dit que le bonheur dans le mariage ne va pas que dans un sens. Le bonheur dans le mariage ne va pas que dans le sens de la femme qui doit absolument être soumise à son mari. Et puis le gars, le reste, on n'a rien à lui dire. L'homme aussi a une responsabilité. Il doit aimer sa femme. Notre problème au Gabon, c'est que tous les problèmes du monde, on les rejette sur les femmes et les hommes, on ne leur dit rien. C'est comme si ce sont des pachas, des patrons qui doivent faire ce qu'ils, qui peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent avoir 1, 2, 3, 4, 5 bureaux. Quand on fait les réunions de famille au village, on adule plus la femme. On en arrive même parfois à dire, mais c'est normal s'il a une femme, pardonne-le. Et puis, oh, ça fait quoi s'il a, il t'a trompé une fois ou deux fois? Comme si genre, c'est permis quoi. Genre, c'est normal. Dites-moi, c'est pas normal. Ah là, les femmes ont parlé. Non, les responsabilités incombent aux deux. Certes, si Paul prend le temps de s'étendre sur l'homme, c'est parce que depuis Éden, Dieu nous a révélé que la responsabilité de l'homme était bien plus lourde que celle de la femme. Parce que l'homme est celui qui est venu en premier. Dites moi, il est premier. L'homme est en premier. Donc, c'est lui qui est aussi sanctionné en premier. Quand on dit qu'il y a le feu à la maison, le premier qu'on sanctionne, c'est l'homme. Si moi je rentre dans une maison où on me dit il y a un problème entre les deux, je dis à la femme, va d'abord faire un tour, je vais d'abord le frapper lui. Je vais d'abord le régler son compte à lui. Quand je dis frapper, je mets ça entre guillemets, rassure-toi. C'est d'abord l'homme qui est fautif, parce que c'est lui qui est responsable de la maison. Alléluia. Donc il y a un ordre, et cet ordre, il faut le respecter d'abord. Alléluia. Je vais d'abord me concentrer sur la dimension naturelle. Parce que tout simplement, au regard de la parole de Dieu que nous venons de lire, Paul s'étend d'abord sur la dimension naturelle, sur ce que tu comprends naturellement. Hein? Vous savez, ce séminaire, ce n'est pas seulement pour les personnes qui sont déjà mariées. Ce séminaire s'adresse même plus aux personnes qui ne sont pas mariées. Ceux qui sont déjà mariés et qui n'ont pas de problème, que Dieu vous bénisse. Ceux qui sont désolés de s'être mariés, fortifiez-vous. Et ceux qui ne sont pas encore mariés, assurez-vous de comprendre ce qui va être dit pour ne pas vous tromper. Parce que je peux vous assurer que le mariage, ce n'est pas la blague. Et moi, ce n'est pas la blague. Les jeunes, ce n'est pas la blague. Ne jouez pas avec cette histoire-là. Jeunes chrétiens, soyez matures spirituellement et éclairés concernant le mariage. Arrêtez d'aller toujours vous exciter avec plein de messages qui parfois le plus souvent ne vous apportent rien à votre vie. Ça, ce sont des sujets sérieux. Il ne faut pas vous tromper. Et moi, je suis le pasteur d'une église qui veut que les mariages soient glorieux. Il y aura, c'est vrai, il y aura des zones de turbulence, c'est normal. Quand tu fais un vol, tu quittes Libreville, tu vas à Paris. Il y a toujours des zones de turbulence, mais tu arrives toujours à destination, non? Voilà, le mariage, c'est ça. Il y a des zones de turbulence, mais dès qu'il y a des zones de turbulence, tu ne vas pas dire au pilote, je vais sauter de l'avion. Non. On vous dit, attachez vos ceintures. Si vous étiez aux toilettes, retournez vous asseoir et attachez vos ceintures. Et ensuite, ça va passer. C'est pour cela que quand vous avez des problèmes dans le couple, ce que les autres frères et sœurs te disent, mais attache ta ceinture et supporte pendant un temps et prie, et ça va aller. Mais il y en a, ils veulent sauter de l'avion. Ou bien ils vont voir, ils veulent aller voir ailleurs, etc. Non. M'aider, m'aider, est-ce qu'il y a encore un pilote à bord? La dimension naturelle de cet ordre divin dans le mariage. L'ordre divin dans le mariage, il y a une dimension naturelle que Paul nous présente ici. Et quand on lit le texte, on comprend que la clé du bonheur pour la femme est qu'elle se soumette et qu'elle respecte son mari en toutes choses. Il dit en toutes choses. Dis-moi en toutes choses. Femme, la Bible dit en toutes choses, soumettez-vous à votre mari. Femme, en toutes choses. Quand on dit en toutes choses, c'est pas en toutes choses selon mon raisonnement à moi. Non, c'est en toutes choses. En tout, dis moi en tout. Donc, il n'y a pas à discuter. Si en face de toi, c'est ton époux, quel que soit le sujet, même s'il te permet de raisonner avec lui, de discuter avec lui, s'il dit à la fin non, c'est non. Tout ce qui te reste à faire, c'est d'aller prier pour qu'il dise oui. Non, 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 moi je suis né de nouveau, hein. Je vais aller à l'église aujourd'hui. Non, je pars quand même. Hein? Quoi? Tu as dit quoi? Je pars quand même. Tu es une femme insoumise. C'est en toute chose. Je vais aller à gauche ou non. Car dans la maison, comme nous dit Éphésiens 5, 22, car comme Christ est le chef de l'église, femme, de même que vous êtes soumis à votre Seigneur Jésus-Christ, soyez soumis à vos maris. Comment se fait-il que tu peux être soumis au Seigneur? Tu viens adorer le Seigneur, tu joues les spirituels devant tout le monde, mais dès que tu rentres à la maison, tu n'es pas soumis à ton mari. Il y a un problème. Car celui qui reflète le Seigneur, dis avec moi le Seigneur, celui qui reflète le Seigneur dans ta maison, c'est ton mari. Oh! Jésus, même si mon mari c'est un kinda, non, 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 c'est lui le Seigneur. C'est lui le Seigneur. Femme, soyez soumise à vos maris. La clé du bonheur pour l'homme, c'est qu'il aime son épouse et se sacrifie pour elle. Car Paul nous dit dans son texte que Jésus-Christ s'est sacrifié pour son église. Donc, un homme qui veut le bonheur dans sa maison, qu'il aime sa femme. Et je vais t'expliquer ce que c'est qu'aimer sa femme tout à l'heure. Qu'il aime sa femme. Le problème avec les hommes, c'est qu'ils veulent que les femmes leur soient soumises, mais eux, ils ne veulent pas les aimer. S'il y a bien une chose qu'une femme demande en premier, c'est l'amour et l'attention. Le problème, c'est que nous, on ne veut pas le leur donner. On veut juste qu'elle le soit quand on rentre, quand on est un peu chaud là, on veut qu'elle se déshabille et puis quand elle te dit non, tu te fâches, oh, c'est quoi? Elle te dit, mais est-ce que tu m'as d'abord aimé? Aime-moi d'abord, ensuite je te donne ce que tu veux. Si tu ne m'aimes pas, pourquoi tu veux que je te donne quelque chose? Je ne te donne rien. Aime-moi d'abord. Mais je t'aime, non, viens, oh, je t'aime. Non, 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 non. Aime-moi réellement. Exprime-moi cet amour, offre-moi des cadeaux, fais-moi sortir, mets-moi bien, quoi. Tu viens, Tu veux lui faire un câlin, mais ça fait 6 mois que tu ne l'as même pas emmené au restaurant une seule fois. Elle est toujours là à la maison en train de t'attendre. Elle attend toujours dès que tu rentres à manger, c'est prêt. Ton costume est prêt le matin. Tu viens, c'est toujours monsieur qui joue les durs, qui fait rentrer l'argent à la maison. Tout ça, tout ça, tout ça. Elle doit être soumise. Mais toi, tu ne dois pas l'aimer. Pourquoi? Marie, aimez vos femmes. Dis avec moi, Marie, aimez vos femmes.
Marie, aimez vos femmes.
La parole de Dieu, ce n'est pas seulement pour les blancs, hein, c'est aussi pour les Africains. Hein? C'est aussi pour les noirs. Même si je sais qu'il y aura des blancs aussi qui viendront prier ici. La responsabilité de l'homme est de rendre sa femme glorieuse, parfaite, resplendissante et éclatante, dit la Bible. Car il dit, afin de faire paraître cette femme devant lui. Je vais t'expliquer ça tout à l'heure. Glorieuse, resplendissante, sans tache ni ride, irrépréhensible, irréprochable. Yeah. Car quand il dit afin de faire paraître, c'est une conclusion, s'il te plaît. Ça veut dire qu'il y a un travail qui est fait derrière. Donc, ne te plains pas si le résultat n'est pas bon. C'est que tu ne fais pas correctement ton boulot. Et ça, quand le Seigneur m'a montré ça, j'ai dit, ah ça, j'ai du taf. Hein. Ouais, j'ai du boulot. L'homme a la responsabilité de corriger les défauts de son épouse, garder la beauté de sa jeunesse et la rendre unique et irréprochable. Regardez ce que le Saint-Esprit m'a dit hier. Le Saint-Esprit m'a dit une chose hier qui m'a fait sauter de ma chaise. Le Saint-Esprit m'a dit hier, fils, est-ce que tu sais que concernant le mariage là, entre vous deux, elle a le droit de rentrer dans le mariage imparfaite, même pas prête. Elle peut rentrer avec tous les problèmes du monde dans le mariage, problèmes émotionnels, tout ça, elle rentre, elle a le droit. Parce que l'histoire de dire qu'une femme qui n'est pas prête, le Saint-Esprit me dit, non, les femmes sont tout le temps prêtes. Même si elle a les problèmes, tous les problèmes du monde, elle est toujours prête pour le mariage. En revanche, l'homme, lui, il se doit d'être parfait. Parce qu'en fait, ce n'est pas à elle de guérir toute seule, c'est à lui de la guérir. C'est à lui de prendre soin d'elle. C'est à lui de la restaurer. C'est à lui de faire en sorte qu'elle soit resplendissante. Elle, elle a le droit d'entrer imparfaite. Toi, tu dois rentrer parfait et c'est toi qui dois faire le boulot. Un homme qui se plaint que sa femme a trop de problèmes et qu'il ne supporte plus, c'est sa faute à lui-même. Sache que la femme que tu épouses devant le maire ou devant le pasteur, ce n'est pas la femme avec laquelle tu vas vivre. Parce que celle que tu veux vraiment, elle n'est pas encore là. Il faut que tu sois le laboureur qui mette les bottes, le casque et qui va rentrer pour la faire sortir. Le problème, c'est que nous, on se contente de celle qui est arrivée imparfaite et puis on se plaint. Elle n'est pas bien, elle me fatigue, tout ça. Non, la femme parfaite, elle, c'est une mine d'or qui est à l'intérieur. Il faut que tu ailles chercher, mon ami. C'est pour cela qu'il dit, pour la sanctifier, la purifier avec l'eau de la parole. Afin de la sanctifier, la purifier et la laver avec l'eau de la parole. Une autre version parle du baptême d'eau. Donc tu as du travail à faire pour la laver, la sanctifier, veut dire la mettre à part, etc. Je vais aborder ça tout à l'heure. Moi, j'aime les sujets du mariage parce que dès que je parle du mariage, mon onction, c'est un des sujets qui active mon onction vite. Tu vas voir, on est encore sur le tarmac. Quand on va arriver ici, là, tu vas comprendre. Hé, viens avec moi. Mon frère arrive le mois prochain, là. Il va venir déposer la cerise sur le gâteau. Seigneur Jésus. La dimension naturelle. Il y a autre chose aussi que tu dois savoir, c'est que le mari sanctifie son épouse en la mettant à part, ok, je viens de le dire, pour façonner son apparence, son caractère, sa personnalité, sa mentalité. Quand on dit pour la sanctifier et la faire paraître devant lui, sans tache ni ride, sa responsabilité, c'est de la travailler au corps, travailler son apparence, tout. Tu te plains de son apparence, tu trouves qu'elle n'est pas jolie, c'est ta faute, rends-la jolie. Tu te plains des chaussures qu'elle porte, va lui acheter des chaussures. Tu te plains que elle a grossi, va lui payer une séance de sport. Tu te plains qu'elle n'a pas suffisamment de beaux vêtements, donne-lui de l'argent qu'elle aille faire du shopping. Vous voulez que je vous mette dans la confidence? Dis avec moi, pasteur, mets-nous dans la confidence. Hier quand j'étais en train de méditer sur ça, et le Saint-Esprit m'explique ça, quand il m'a expliqué ça, il m'a dit, maintenant que tu as compris, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, je lui envoie un WhatsApp. Ok, envoie-lui un WhatsApp. J'ai envoyé un WhatsApp, et dans le WhatsApp, je lui ai dit, bon, écoute, j'ai compris, voici ce que le Saint-Esprit vient de m'expliquer, dans quelques semaines, je te paye un billet, tu vas à Paris, tu fais du shopping et tu reviens. Parce que quand elle va là-bas avec le budget qu'il faut, elle revient pimpante. Même Daisy a menti. C'est ce que l'homme doit faire. Au début, elle était claquante. Tu l'as trouvée trop jolie. Et puis quand elle arrive dans le mariage, tu trouves qu'elle a fané. Mais paye-lui les fringues, Joe. Envoie-la aux États-Unis ou en France, t'as pas d'argent. Va bosser, faire entrer de l'argent et rends la belle. Tu trouves qu'elle prend un peu trop de poids, tout ça. Tu la réveilles à 5, à 6 heures. Chérie, viens, on va faire du jogging. Allez, viens, viens, viens. Je suis en train de te travailler là. Faut que je te fasse paraître devant moi, belle. Viens, viens. C'est ta responsabilité. C'est pas sa responsabilité. C'est pas sa responsabilité. C'est toi qui es responsable de présenter cette épouse sans tache ni ride. C'est toi, c'est pas elle. Donc le mari a pour responsabilité de la sanctifier, la façonner son apparence, son caractère. Tu n'es pas content de son caractère? Il dit, afin de la laver avec l'eau de la parole. Tu trouves que son caractère n'est pas bon? Travaille là. Au lieu de tout le temps dire, toi tu as un mauvais caractère. Hein? Non! Quand tu trouves un diamant, est-ce que quand tu viens le trouver, il est tout de suite clinquant? C'est d'abord un caillou. Tu dois laver, polir, lui parler, prophétiser dessus, et après, il devient beau. De même, ta femme, si tu trouves que son caractère n'est pas bon, à toi de la traquer. Quand tu vois qu'elle dit un truc qui va bien ou qu'elle se comporte, tu fais chérie, attends, je vais t'expliquer. Chérie, tu vois, c'est pas comme ça qu'on fait, etc. C'est pas tu fais toujours toi comme la série. Ça, c'est pas les bonnes séries, ça. Ce sont les séries. Je le connais en plus, le garçon. Hein. On a fait l'école ensemble, Samson. Je l'ai encore eu au téléphone hier. Et avant de raccrocher, au lieu de lui dire au revoir, je fais toujours toi. Et ce genre d'émission. Vous vendez la femme qui est boudeuse, insoumise, toujours toi. La femme en Christ, elle dit pas à son mari, toujours toi. Hein? Tu t'assois et tu l'enseignes, tu l'éduques, tu la façonnes. Tu façonnes son caractère, sa manière de penser pour qu'elle devienne mieux éduquée. Si tu trouves qu'elle se comporte mal en public, qu'elle t'affiche, arrête de dire qu'elle me manque de respect en public. Apprends-lui à te respecter en public. Chérie, quand on est en public, c'est pas comme ça. Mais moi, je veux pas être seul quand on est en soirée ensemble. Je veux toujours être avec toi. Non, chérie, tu sais, quand on est en soirée, tu sais, les hommes, quand on est entre nous, on aime rester entre hommes. Il y a des femmes là-bas, va rester avec elles. D'accord, ça veut pas dire que je suis parti. Je suis toujours là. Ok? Au lieu de t'énerver tout le temps avec elles, éduque ta femme. C'est ta responsabilité. Afin de la présenter devant toi sans tache ni ride, irrépréhensible et irréprochable en toute chose. C'est toi qui en es responsable, c'est pas elle. C'est pas tu vas chez les parents, tu te plains, voilà la femme que vous m'avez donnée, elle est comme ci, comme ça. Non, nous on t'a donné un caillou, à toi de faire le diamant. La femme parfaite n'existe pas. C'est au mari de rendre son épouse parfaite selon ses désirs avec l'eau de la parole. Un mari qui se plaint d'une épouse imparfaite ne peut s'en vouloir qu'à lui-même s'il n'investit pas du temps, de l'argent et du cœur pour la rendre éclatante et parfaite. Du temps, de l'argent et du cœur. Que les hommes disent du temps. Non, les hommes disent du temps. De l'argent. Répète encore de l'argent. Dis encore de l'argent. Encore de l'argent. Et puis le cœur. Parce que parmi les trois, c'est l'argent le plus important. Parce que tu peux dire tous les... Tu peux dire tous les belles paroles du monde. Au bout d'un moment, elle va te regarder. Elle va dire, gars, l'argent est où? Moi, je veux l'argent. Il paraît que les Gabonais sont matérialistes. Excusez-moi, moi, je prends leur défense. Elles ne sont pas matérialistes. Les femmes, vous avez raison de vouloir son argent. C'est normal. C'est réaliste, comme on dit. C'est normal. C'est pour cela que, avant que le gars là, te mette la bague au doigt, c'est pas que l'argent doit être la première raison pour laquelle tu vas l'épouser. Non, surtout pas. Mais c'est toujours mieux s'il a de l'argent un peu. S'il a un peu d'argent. S'il n'a pas d'argent, bon, ça va être un peu difficile. Donc, s'il n'a pas d'argent, avant de vous marier, dis-lui d'abord, va trouver un boulot. Tu vois, du travail. Dis avec moi le travail. Ah, Jésus, il faut que je finisse l'enseignement là aujourd'hui. Mais bon, dis avec moi le travail. Tu sais, avant de donner une femme à l'homme, Dieu lui a donné quoi? Un travail. La première chose que Dieu donne à l'homme, c'est le travail. Un homme qui veut se mettre avec une femme, alors qu'il ne travaille pas, il est en train de violer l'ordre. C'est pour cela que vous, femmes, arrêtez de vous mettre avec des garçons, avec des hommes qui n'ont pas de boulot. S'ils commencent à te courtiser, tout ça, tu dis, il n'y a pas de problème, tu es mignon, tu parles bien, il n'y a pas de problème. Mais va d'abord trouver du boulot. C'est pour cela que quand tu vas présenter le garçon à la maison, en général, la maman, elle fait, oh, il est mignon, il est gentil, il est beau, tout ça, tout ça, tout ça. Ses parents, c'est qui, tout ça. Dès que tu le mènes devant le papa, il fait quoi dans la vie? Arrête de m'embobiner avec l'eau rose là. Le gars, je veux savoir ce qu'il fait comme boulot pour savoir s'il est capable de t'entretenir. Parce que moi, je t'ai entretenu depuis que tu es né. Avec mon argent, s'il te plaît. Donc le papa, il va regarder ta poche si tu es capable d'entretenir sa fille. Parce que si sa fille s'appelle Princesse Kaila comme ma fille, qui aime les chaussures comme ça, qui aime les habits comme ça, qui aime les qui est très coquette. Il faut que le garçon qui vienne derrière là, il faut qu'il garde ma fille coquette. Parce que si moi, après avoir donné ma fille au garçon, je vois que ma fille devient bizarre, elle ne s'habille plus, elle est moche, je vais dire, mais gars, tu fais quoi? Moi, je suis en train de saper mon travail là. J'ai rendu ma fille jolie, tu l'as rencontrée, tu en es tombé amoureux, et puis maintenant que je te l'ai donnée, tu fais n'importe quoi. Tu veux une gifle ou quoi? Non! Il faut entretenir la femme. La femme. Et il faut du travail. Les hommes, vous voulez vous marier? Trouvez d'abord du travail. Moi-même, le pasteur en premier, quand tu viendras me présenter la femme dans mon bureau en disant, pasteur, voici celle que je vais épouser, je vais dire, écoute, frangin, est-ce que tu as du boulot? Tu gagnes combien par mois? Tu peux la gérer? C'est très important. Parce que c'est devant lui-même que l'époux fait paraître son épouse sans tache ni ride, pas devant Dieu. Les uns et les autres, vous n'arrêtez pas de dire que vous n'arrêtez pas d'aller vous plaindre devant le Seigneur de votre femme. Vous vous plaignez. Elle est comme si, elle est comme ça, elle est comme si, elle est comme ça. Ce que vous n'entendez pas comme réponse de Dieu, c'est j'en ai rien à faire. C'est pas à moi qu'il faut la présenter, c'est à toi-même. Va la travailler au corps. Donne-lui ce dont elle a besoin et présente-la à toi-même. Ça veut dire quoi? Se la présenter devant lui-même, la faire paraître devant lui. Il n'y a rien de plus plaisant pour un homme quand sa femme a tous les honneurs et tous les compliments du monde et puis il est juste là, il regarde sa petite. Oh, elle est magnifique. Je vous assure, Quand votre femme attire les regards, par exemple, vous arrivez à une soirée, tous les regards sont sur elle. Au lieu de rester à côté d'elle, ne reste pas à côté d'elle. Au contraire, éloigne-toi pour que tout le monde la regarde bien. Parce qu'en la voyant seule, ils voudront tous aller vers elle. Tu te mets dans un coin et puis tu regardes. Parce que tu sais, nous les hommes, c'est le monde de la performance et de la compétition. Tu regardes tous les hommes. Tu les vois tous comment ils rêvassent de la voir. Tu fais, c'est moi qui l'ai. Oh, oh, oh. C'est ma petite. Ah, c'est ma petite. Elle est à moi. C'est moi qui l'ai eu. Et tu es là tout heureux, tu l'admires, tu la regardes, elle est belle. Tu sais, quand la Bible dit, quand Jésus-Christ dit, celui qui convoite une femme dans son cœur, hein, qu'en la regardant, il a déjà péché, etc. C'est interdit pour toutes les femmes, sauf pour ta femme. Hein. Pendant toute la soirée, tu peux la regarder, tout, tu la dévisages, tout. C'est ta femme, dis-moi c'est ma femme. Alléluia. La femme, dans le mariage, la dimension naturelle, la première chose que Paul nous dit à son sujet, c'est qu'il faut qu'elle soit soumise. Il faut que la femme soit soumise. C'est le premier ordre. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, regarde ce que la Bible nous dit. On revient sur le verset. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Ensuite, il explique ce que l'homme doit faire. Et il termine à nouveau son texte en disant, « Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. » Il rentre, il commence par la dimension naturelle. Après, il rentre dans la dimension spirituelle où il nous révèle que le mariage est un mystère. Mais il se dit, écoutez, ce n'est pas aujourd'hui que je vais vous expliquer ça. Du reste, ça veut dire, bon, en tout cas, que la femme respecte et se soumette à son mari et que les maris aiment leur femme. Amen. La version parole vivante, rappelez-vous ce qu'il a dit à la fin. Quoi qu'il en soit, sur le plan humain, que chaque mari parmi vous aime sa femme comme son propre moi. Que chaque épouse estime et respecte son mari. Amen. Donc, la chose la plus importante qu'une femme doit faire pour rendre son couple, son foyer heureux, c'est d'abord de respecter et de se soumettre à son mari. Dis avec moi, il faut se soumettre à son mari. C'est la dimension naturelle. Pourquoi? Parce que regarde ce que la Bible nous dit dans le grec. Je suis allé regarder le grec du mot se soumettre ou encore soyez soumise. C'est le grec upotasso qui veut dire être sous la mission ou encore obéir à ou être sous le contrôle de quelqu'un. Se soumettre veut dire être sous la mission de cet homme. Ça ne veut pas dire être son esclave. Ça veut simplement dire être sous un, sous sa responsabilité. Deux, cet homme-là que tu t'apprêtes à épouser, Dieu lui a donné une mission. Dieu a mis sur sa vie une destinée. Et en l'épousant, tu te soumets à cette mission-là. Tu embrasses cette mission-là. Parce que l'un des problèmes que l'on rencontre dans les foyers, souvent, c'est que quand tu t'adresses à la femme et que tu l'écoutes, quand tu écoutes l'épouse, elle a un autre discours différent de son mari. Elle n'a pas épousé la même vision que lui de la vie. C'est ce que les Blancs ont appelé poliment au tribunal incompatibilité d'humeur. Non, mais dans le mariage, il n'y a pas incompatibilité d'humeur. Il n'y a qu'une seule humeur, c'est celle du mari. Et toi, tu te soumets à sa mission. Je vous assure, quand une femme se soumet à la destinée de son homme, qu'elle embrasse sa destinée, elle trouve sa destinée à elle. Parce que la destinée de la femme, c'est d'être à côté, d'être une aide. Le problème c'est qu'on a dans les maisons, c'est qu'elle, elle ne veut plus être à côté, elle veut être devant. Elle est à côté Vous savez, quand vous regardez par exemple, c'est pour ça que moi j'aime aux États-Unis, quand vous regardez le président Donald Trump, qui est président, à côté de lui, il a le vice-président. Le vice-président, son rôle, c'est d'être un excellent, le meilleur vice-président. Pas de vouloir prendre la place du président. À l'église, vous avez le pasteur et vous avez le pasteur associé. Le pasteur associé, quand il reste à sa place et qu'il fait bien son boulot, c'est un excellent pasteur associé et il bénit l'église. Mais quand il commence à convoiter la place du pasteur, il y a conflit. Pourquoi? Parce que notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Chacun a sa place. Donc, quand il dit « Soyez soumise à votre mari », il est en train de dire « Soyez soumise à sa mission ». Soyez obéissant, laissez-vous être sous son contrôle. Ça ne veut pas dire que ça va être un tyran qui va te détruire, etc. Ça veut dire simplement que si lui aussi fait bien son travail, tu seras heureuse à ta place. Alléluia. Si tu es avec moi, fais comme ça. Oui. Monsieur. Ok. Ça commence. C'est bon? Donc, l'épouse selon Christ, ne vous laissez pas perturber, restez concentrés sur ce que je dis. L'épouse selon Christ se soumet à son mari, non pas en partie, mais entièrement comme elle le fait devant son Dieu. Elle se soumet. Et si le mari quitte père et mère pour s'attacher à sa femme, l'épouse, elle, elle abandonne toute vision et ambition personnelle pour embrasser celle de son mari. Toute vision et ambition personnelle, elle abandonne tout et elle embrasse celle de son mari. L'homme que tu choisis d'épouser, de suivre, cet homme-là, il va quelque part dans la vie. Et ton rôle en tant qu'épouse, c'est d'être une bonne épouse et de l'accompagner vers sa destinée. Une épouse à côté répondra de ce qu'elle aura fait à côté de son époux. Car un homme peut manquer sa destinée s'il se trompe de femme ou si la femme ne fait pas correctement son boulot. Il n'y a rien de plus frustrant pour un homme qui a une vision pour sa vie, au niveau professionnel ou autre, et il est dans une maison avec une femme qui l'empêche d'aller vers sa vision. Il n'y a rien de pire. C'est pour cela qu'il y a des hommes, quand ils ont compris que la femme fait tout pour l'empêcher d'atteindre sa destinée, ils préfèrent divorcer. Parce qu'il dit, je préfère divorcer et atteindre ma destinée que de rester avec une femme, cette femme, et manquer ma destinée. Et c'est pour cela que c'est dur. Parce que on le retrouve dans les couples chrétiens. Il y a des couples chrétiens qui savent que, selon la parole de Dieu, ils ne doivent pas divorcer. Mais quand ils se rendent compte que la femme qui est avec lui l'empêche d'atteindre sa destinée, il se dit, j'ai le choix entre rester avec cette femme ou bien m'en séparer et continuer le chemin. Parce que dès le départ, il aurait dû s'assurer qu'elle avait embrassé la vision. Il y en a d'autres, elle a embrassé la vision, mais en cours de route, elle change d'avis. C'est pour cela que Salomon dit, il n'y a rien de pire que d'habiter dans la maison d'une femme querelleuse. Femme, soyez soumise à vos maris. Alléluia. Tu me suis? C'est très important. Être soumise en tant qu'épouse ne veut pas dire être idiote. Être là et puis je dis rien. Et puis, non, ce n'est pas ça du tout. Être soumise, être sous la mission, te donne le droit d'être à côté de ton épouse et dire je suis là pour veiller à ce que tu atteignes la mission. Là, tu es en train de te gourer. Tu te trompes. Cette gars-là à côté de toi, j'aime pas. Cette femme à côté de toi, j'aime pas. Cette activité que tu fais, j'aime pas. Elle nous distrait. Arrête ça, arrête ci, arrête ça. Si l'homme est sage, un homme sage dans la maison, il écoute toujours sa femme. Parce qu'elle a un sixième sens que lui, il n'a pas. Ça s'appelle le flair. Elle sent les choses venir de loin. Elle est là avec son gars. Elle voit une femme venir à 5 km. Elle fait, je ne la sens pas. Celle-là, je ne la sens pas. Elle n'a même pas commencé à parler qu'elle me fatigue déjà. Et toi, tu es là, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Non, tais-toi, écoute ta femme. Oh, elle est trop jalouse, elle n'est pas jalouse, elle te protège. Elle est sous ta mission. Elle est ton directeur de cabinet, ton ministre de l'intérieur, ton garde du corps, ton aide de camp, tout. Je me rappelle, je regardais une interview de Will Smith, l'acteur américain Will Smith. Il était en train de parler et puis la journaliste, c'était une belle blonde, et il parlait. Et pendant que le caméraman le filmait, on voyait la journaliste à côté, lui on le filmait. Et comme par hasard, dans le fond, dans le background, on voyait Jada Pinkett qui était là-bas, son épouse. Et Jada Pinkett était en train de parler avec d'autres personnes, mais pendant qu'elle parlait, elle n'arrêtait pas de regarder comme ça. Mais c'est quoi cette blonde qui arrête pas de garder mon mari longtemps comme ça là? Et plus elle parlait et plus elle se rapprochait de lui, elle tendait son micro et s'est rapprochée. Et plus il était là, tout content. Et tout d'un coup, on voit la femme qui quitte de loin, elle vient faire excusez-moi, je récupère mon mari, merci. T'es une bandite, toi. Alléluia. La soumission de l'épouse, c'est une soumission qui est esprit, âme et corps. Esprit, âme et corps. Amen. C'est une soumission entière. Une épouse qui ne se soumet pas entièrement à son époux créera naturellement des conflits avec son mari dans son foyer et en souffrira. Beaucoup de souffrances de femmes viennent du fait qu'elles ne se soumettent pas à leur époux. Amen. La soumission n'est pas un esclavage selon le monde. Parce que le monde, dès que tu parles de soumission, on te parle d'esclavage. Nous ne sommes pas des esclaves, ce n'est pas mon maître, etc. On est mariés, certes, mais je fais ce que je veux. Ça n'existe pas dans le royaume. Une femme qui est mariée et qui fait ce qu'elle veut. Ça n'existe pas. Elle est mariée, heureuse, certes, mais soumise à son époux. Le monde te vend l'esclavage, mais dans le royaume, c'est une main d'association avec l'homme pour cheminer ensemble vers l'accomplissement d'une vision commune. Car elle a embrassé la vision du couple et c'est maintenant ensemble qu'ils cheminent vers la même vision. Alléluia! C'est très important. Donc la soumission est une association. On s'associe ensemble. Toi et moi, on s'est rencontrés. Quand nous avons commencé à parler, on a vu qu'on avait les mêmes centres d'intérêt. Je voyais la vie à peu près de la même manière que toi. Je décide de m'associer à toi, de t'épouser, et je te laisse être mon chef, mon guide. D'accord? Mais j'ai la même vision. Ce n'est pas maintenant qu'on est dans le couple. Maintenant, moi aussi, je veux faire ce que je veux. Regardez, je vous donne un exemple très concret. Tu connais ton homme. Tu connais ses ambitions. Tu connais ses rêves. Tu sais qu'il a toujours eu envie, par exemple, de faire des affaires. Même quand vous étiez encore étudiant, il te parlait déjà business. Il a rêvé d'être un entrepreneur. Il a ça dans le sang. Et arrivé dans le mariage, le gars dit, je me lance dans l'entrepreneuriat, je crée une structure. C'est un très beau projet. Tu vois qu'il se met à fond sur ce projet. Et puis toi, tu fais autre chose. Tu ne le soutiens pas, tu ne l'aides pas, tu n'en parles même pas avec lui. Toi, tu as toujours rêvé de faire de la politique. Donc, dès que tu rentres à la maison, on ne parle que politique. Dès qu'il parle business, tu fais... Tu es une mauvaise aide. Parce que ton boulot, à côté de lui, c'était de l'aider à entrer dans sa destinée. Alléluia. Je connais un couple comme ça. Non-croyants en plus. C'est-à-dire, on se connaît depuis des années. Et puis ce jour-là, je suis surpris de voir le monsieur me dire, écoute, tu parles bien avec elle. Sauf que là, on a un sérieux problème. Elle, elle veut faire ça. Mais moi, c'est mon business. Son business lui prend du temps. Il a maintenant des salariés, il a de l'argent, etc. Ça marche très bien pour lui. Tout marche pour lui. Il a des entrées dans le pays maintenant, etc. Sauf que quand il rentre à la maison, il a cette femme qui s'intéresse à rien de ce qu'il fait. Elle est toujours dans ses rêves, dans ses nuages. Elle veut faire autre chose. Au bout d'un moment, il s'ennuie avec elle. Il s'ennuie. Car il n'y a rien de mieux pour un homme, quand il réussit, de voir sa femme qui lui dit, je suis fier de toi, mon doudou. Si tu l'appelles doudou. Ou mon coco. Ou mon chéri. Ou mon loulou. Etc.
Chérie, aujourd'hui j'ai décroché un contrat avec Total. Waouh! C'est trop génial. Ah bon? D'accord. Mais j'ai compris, tu as décroché un contrat avec Total, non? Et puis tu es là. Oh, c'est tout ce que ça te fait? C'est bien, non, c'est bien. Mais sans plus, quoi. Waouh! Par contre, quand il sort et qu'il arrive à son bureau, il a sa secrétaire particulière qui fait « Monsieur, c'est génial! Monsieur, vous êtes le meilleur! Venez que je vous embrasse les pieds! Monsieur !» Et puis lui, il devient amoureux de la secrétaire particulière. Et tu dis « Elle m'a volé mon mari !» Elle t'a pas volé ton mari, c'est toi qui étais bête. Alléluia! La dimension naturelle de la femme, regarde ce que Pierre nous dit, c'est intéressant comme texte, ça nous rejoint un peu ce qu'on est en train de dire. Et je vais aller vite pour atterrir. 1 Pierre chapitre 3 au verset 1. « Vous de même, femme, soumettez-vous à votre mari. Ainsi, ceux qui refusent de croire à la parole pourront être gagnés sans parole par la conduite de leur femme en observant votre manière de vivre pure et respectueuse. » Que votre parure ne soit pas une parure extérieure, cheveux tressés, ornements d'or ou vêtements élégants, Gucci, tout ça là, non, laissez. Mais plutôt celle intérieure et cachée du cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'une grande valeur devant Dieu. C'est ainsi que les femmes saintes qui espéraient en Dieu se paraient autrefois. Elles se soumettaient à leur mari comme Sarah qui a obéi à Abraham en l'appelant son Seigneur. Vous êtes devenues ses filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Amen. Il nous donne un exemple ici, Sarah, qui est l'exemple même de la femme soumise à son époux. Elle était tellement soumise à son époux. Elle l'admirait tellement, elle l'élevait tellement qu'elle l'appelait mon Seigneur. C'est quand la dernière fois que tu as appelé ton époux mon Seigneur? Oh! Mais tu sais, les hommes, il y a certains mots quand tu utilises, ça réveille la testostérone en eux, là. Ça réveille l'homme. Tu sais, chez un homme, quand tu lui parles, les femmes, c'est un secret que je vous donne là. Parce que moi-même, je suis un homme, je connais la chose. Chez un homme, il y a deux personnages en lui, le fou ou le roi. Quand vous vous adressez à lui, assurez-vous de savoir à qui vous vous adressez. Ne soyez pas étonné de la réaction. Si tu parles et qu'il y a une gifle qui parle, qui est partie, c'est que tu t'es adressé au fou. Parce que le roi, quand il est touché, en général, il est bienveillant. Mais si tu lui parles et puis c'est toujours le colérique qui sort, c'est le fou. Amen. Donc quand Sarah disait « Mon Seigneur », elle s'adressait toujours au roi. C'est pas tu dis « Regarde-le là-bas, espèce !» Quand tu fais ça, c'est le fou qui va réagir. Tu as dit quoi? « C'est qui commande ici? Viens ici !» Là, c'est le fou qui est parti. « Mais je croyais que tu étais chrétien, on ne tape pas sa femme, non ?»« Non !» Faut savoir à qui tu parles. Même si tu n'es pas d'accord, attention. Attention, qu'une femme dise attention. Attention. Parce que même si c'est l'homme le plus doudou, patient, rempli du Saint-Esprit, à l'église, il est respecté de tout le monde. Mais si à la maison, tu lui parles mal, il va juste te regarder, il va te dire, je veux te montrer qui commande ici. Même si on est chrétien, tu vas t'asseoir et je vais t'éduquer. Rassure-toi, je ne suis pas en train de dire qu'il doit frapper tout ça. Non, non, non. S'il frappe, c'est que là, on a découvert qu'il était païen. Non, non. S'il est en Christ, il a une manière de parler à son épouse où il sait comment l'éduquer. Alléluia. Mais si tu t'adresses toujours à lui en disant « mon Seigneur, c'est une parabole, c'est une manière de dire « mon chéri, mon doudou ». Par exemple, tu as vu une magnifique robe qui coûte cher. Et tu sais que le montant, le prix de la robe là, c'est le montant de ce qu'il y a dans votre compte épargne. Mais tu veux absolument la robe. Et tu sais qu'il va dire non. Tu n'oses même pas lui demander, mais tu veux la robe. Lui, il part au travail tous les matins. Il part au travail le matin. Tu as toute la journée pour mettre en place la stratégie pour lui demander la chose. 19h30 arrive, dès qu'il rentre, à peine il rentre, dès qu'il ouvre la porte, il y a un parfum suave là qui rentre. Tu sais quoi, c'est ça? Tu as parfumé la maison. Les lumières sont tamisées. Il voit les bougies partout. Il dit, ça c'est quoi? Et quand il traverse le salon, il ouvre, il voit un magnifique repas sur la table. Oh, 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 oh. Il dit, qu'est-ce que ma petite veut me faire aujourd'hui là? Bon, si ça fait 6 ans qu'elle n'a pas fait ça, tu risques d'avoir un peu peur. Et là, tu la trouves, elle sort avec un peignoir, mais trop magnifique, d'un rouge tentant. Et elle te dit, en dessous du peignoir, on va d'abord manger. Et tu viens, tu t'assois. Le repas, elle t'a fait ton repas préféré, tout ça bien. Chez nous, les tékés, moi, c'est le nkoumou. Elle te fait ça bien, avec les crevettes, tout ça. Et tu manges ça bien. Après, elle te tape un peu la causette avec un beau dessert, le temps que tu digères. Après, elle te prend par la main. Et puis, vous traversez le couloir. Et avant de fermer la porte, elle vous fait comme ça. Clé d'œil. Et vous restez là-bas 2 heures. Quand tu es bien là, quand tu l'as mis bien, quand le gars est juste là, il fait juste, chérie, demande-moi tout ce que tu veux. Même la moitié de mon royaume, je te donne. Quand tu l'as mis bien là, il a bien mangé, tu l'as mis bien. Tu peux maintenant lui demander. La stratégie est accomplie. C'est après coup qu'il va se rendre compte qu'il t'a donné. Dites avec moi, mon Seigneur. Donc, il faut savoir comment prendre l'homme. La version parole vivante, elle dit, soyez soumise à votre mari pour que ceux d'entre eux qui refusent de croire à la parole soient gagnés à la fois sans parole par le témoignage silencieux de votre vie quotidienne, rien qu'en voyant votre conduite pure et réservée, inspirée par le respect. Qu'est-ce qu'il dit ici? Il est en train de dire que parmi vous, il y a des femmes, vous êtes mariées avec des non-croyants. Des gars, mais vraiment compliqués. Et dès que vous parlez de l'église, il fait, oh, tu es l'église là, n'importe quoi. Pour qu'ils commencent à croire en Jésus-Christ et qu'ils commencent à venir à l'église, c'est en te regardant. S'ils voient la femme qui est douce, parce qu'il y a un moment, là, celle qui est douce, parée d'une parure, tout ça, celle qui est douce, respectueuse, attendrissante, etc. Quand il dit quelque chose, même s'il a haussé le ton, ta manière de réagir, ils se rendent compte que il n'aurait pas dû. Tellement tu es douce, tellement tu es agréable avec lui. C'est pas, il élève la voix, tu élèves la voix. Il est là, tu élèves la voix. Il y a maintenant 2 gorilles à la maison. Non! Non, non, non. Vous savez, les femmes, il y a une attitude qui fait toujours, qui incline toujours le cœur de l'homme. Quand il a dit quelque chose ou quand il a fait quelque chose, et puis vous voyez que ça ne sert à rien de répondre, ça vous a blessé, etc. Il y a une attitude que vous adoptez, pas un air de pitié, mais vous êtes calme dans votre coin. Calme. Et puis il est là. Tu fais comme si de rien n'était. Mais je t'assure que si vraiment vous êtes marié, il va comprendre que là, ce n'était pas bien. Il y a une attitude de calme et de douceur qui fait que si c'est vraiment... Bon, il y en a, j'avoue, je dis ça, quelqu'un me regarde ici en disant, pasteur, on dirait que vous n'êtes pas gabonais. Hein? Parce que nos hommes, là, parfois, c'est compliqué. Nos hommes, c'est moins compliqué. Mais il y a une attitude, vous connaissez. Il y a une attitude qui fait que il va revenir en disant, bon, ça va, excuse-moi. Hein? Bon, si tu es avec un homme qui met 3 mois pour demander ça, bon... Prie. intercède de la nuit, je ne sais pas, mais... Alléluia! Si tu es avec moi, fais comme ça, on a bientôt fini. Colossiens chapitre 3, verset 18 dit, « Femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. » La version parole vivante dit, « Épouses, soyez soumises chacune à son mari comme il convient dans le cadre d'une vie chrétienne à des femmes appartenant au Seigneur. » Quel que soit ce que l'homme a fait ou dit, tu appartiens au Seigneur. Et si tu vois que ton homme ne comprend pas, il est dur, parce que tu appartiens au Seigneur, devant le Seigneur, tu as le droit d'aller t'agenouiller, de pleurer devant ton Dieu et de le critiquer. Et de dire, Seigneur, ce qu'il m'a fait là, ce qu'il me fait là, Père, parle-lui. Parle-lui. Nous, ce que nous avons fait, elle et moi, elle sait que quand c'est compliqué là, que je ne comprends rien, elle dit, ok, Dieu va te parler. Et quand Dieu me parle, c'est toujours, tu vois, j'avais raison. Amen. C'est pour cela qu'il est important d'épouser un homme qui prie. Parce que si tu es avec un homme qui ne prie pas, c'est plus difficile. Donc ceux qui ne sont pas encore mariés, assurez-vous que votre gars, c'est quelqu'un qui lève les mains au ciel et qui prie. Et si tu vois dans la maison que ton homme ne prie plus trop, tu es son aide, alerte-le. Chérie, je trouve que ces derniers temps, tu pries plus beaucoup. Il faut que tu reprennes ta vie de prière. Parce que tu es la tête du foyer et on n'a pas envie d'aller dans le mur. Donc, vaut mieux que tu pries. Si tu vois qu'il est trop fatigué, qu'il est rentré dans un assoupissement spirituel, il est épuisé, réveille-le la nuit et dis, chérie, on va prier. Ah, oh, je suis fatigué, tout ça. Il n'y a pas de problème. Tu veux rester au lit, tu te mets à prier. Ro, et tu pries fort dans la chambre pour qu'il ne dorme pas. Ro, katare, bro, stekete. Au nom de Jésus, Seigneur, touche mon mari. Ro, bah. Chérie, tu es obligé de crier comme ça. Parce que je veux que tu pries avec moi. Donc, comme tu ne pries pas avec moi, je suis obligé de prier pour deux. C'est pour ça que je crie comme ça. Alléluia. L'homme, le mari, il y a aussi un certain nombre de choses que Paul dit à son sujet. Paul dit concernant le mari, dans le cadre de l'ordre divin, il dit, Marie, aimez vos femmes, etc. Et il conclut en disant, c'est ainsi que le mari doit aimer sa femme, que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. Il dit la version parole vivante, oui, c'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme. Au fond, pour un époux, aimer son épouse, c'est aimer son autre moi. Donc, s'aimer soi-même. Or, personne n'est si insensé qu'il haïsse son propre corps. Au contraire, chacun le nourrit de son mieux et l'entoure de soins. C'est exactement ce que le Christ fait pour son Église, c'est-à-dire pour nous. Ne sommes-nous pas les membres de son corps, os de ses os et chair de sa chair? Marie, aimez vos femmes. Maintenant, qu'est-ce que c'est que aimer sa femme? On a tendance à croire que ça doit rester abstrait, spirituel, etc. Non, il dit, voici comment tu dois aimer ta femme. Il dit, c'est ainsi que vous devez aimer votre femme. Il dit, comme son propre corps. Comment est-ce qu'un homme prend soin de son corps? Regarde comment tu prends soin de ton corps et ça te donnera une idée de comment tu dois aimer ta femme. Si tu es un homme qui aime bien t'habiller, aime-la en lui permettant de très bien s'habiller aussi. Si tu aimes te parfumer, donne-lui le double de tes parfums. Si tu aimes te faire plaisir quand tu as de l'argent, elle doit se faire aussi plaisir. Car il dit, personne n'a haï son propre corps. Ça veut dire que personne ne se regarde, il voit qu'il est sale et il reste sale. Quelqu'un qui voit qu'il est sale, il va se laver. De même, celui qui aime sa femme, la regarde et parce qu'il l'aime, il décide d'en prendre soin. Un homme qui ne prend pas soin de sa femme est un homme qui ne s'aime pas lui-même. C'est ce que Paul nous dit ici. Alléluia. Donc, l'homme démontre son amour envers sa propre personne en aimant son épouse. L'époux étant la tête du foyer, le premier commandement de la loi s'applique directement à lui. Le premier commandement, c'est quoi? Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, de toute ta force. Et le commandement qui lui est semblable, la Bible nous dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Matthieu chapitre 22, verset 36. Le premier commandement de la loi ne s'applique pas à la femme dans le mariage. Il s'applique à l'homme. Tu aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, ton Dieu. Et voici celui qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. En d'autres mots, Paul nous dit ici que cette femme-là, si tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, cela doit être la même chose pour cette femme. Tu dois l'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que quand tu regardes ta femme, tu vois quelqu'un que tu aimes de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée? Si ce n'est pas le cas, alors c'est que tu as violé la loi en allant épouser cette femme alors que tu n'étais pas vrai. Mais Paul va plus loin en disant que si tu vois cette femme et que tu n'en prends pas soin, et les hommes, écoutez bien, quand vous ne prenez pas soin de vos épouses, Paul dit, c'est pas juste que tu n'aimes pas Dieu. Non, 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 parce que c'est facile de dire qu'on aime Dieu alors qu'on ne le voit pas. C'est facile. Tu démontres l'amour que tu as pour Dieu quand on voit comment tu aimes ta femme. Si on voit un homme qui néglige sa femme, qui se plaint de sa femme, cet homme n'aime pas Dieu. Parce que celle qui reflète l'amour qu'on a pour Dieu, c'est l'épouse. C'est pour ça qu'il dit, aimez-la comme Christ a aimé l'église. D'accord? Comment Christ a aimé l'église? Il s'est sacrifié pour elle. L'église, c'est qui? Dites-moi l'église. L'église, c'est nous qui donnons des maux de tête à Jésus. Elle est insoumise, elle est rebelle, elle fait tout le temps des bêtises, etc. Pourtant, Jésus-Christ, jamais Jésus-Christ... Imaginez Jésus un jour rentre à la maison du bâtisseur. Écoutez, la maison du bâtisseur, j'ai décidé de divorcer de mon église, j'en ai marre. Non! Jamais Jésus n'est descendu du ciel en disant, je divorce de l'église. Non! Depuis que Jésus-Christ est ressuscité, on n'a jamais entendu ça. C'est pour ça que Dieu dit, l'histoire de divorce là, je ne connais pas. Ah mais pasteur, c'est compliqué. Tu sais, parfois il y a des cas très très compliqués. Je sais. Tu n'as pas besoin de me refaire l'histoire. Il y a des cas compliqués, certes. Mais s'il y a Dieu au milieu, tout est possible. Tout est possible. Donc, tu démontres ton amour à Dieu en voyant comment tu aimes ton épouse. Si Dieu voit que tu ne sais pas aimer correctement ton épouse, qu'elle est malheureuse dans la maison. La Bible dit dans 1 Timothée, tu es pire qu'un incroyant. Tu ne sais pas prendre soin des tiens et tu dis que tu aimes Dieu, tu es pire qu'un incroyant. Alléluia, si tu es avec moi, fais comme ça. Il est très difficile pour un homme de mesurer son amour pour Dieu jusqu'au jour où il s'unit à celle pour qui il est prêt à se sacrifier. Un homme qui est célibataire et qui dit j'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu. C'est facile, il est seul. On ne peut pas contrôler, on ne peut pas vérifier. Mais dès qu'il se marie, c'est là qu'on voit si tu aimes vraiment Dieu. Parce que c'est la manière dont tu vas prendre soin de cette femme-là qu'on va déterminer si vraiment tu aimais le Seigneur. Parce que c'est en témoignant de l'amour envers son prochain qu'on arrive à voir vraiment l'amour de Dieu dans notre vie. Alléluia! Pour l'homme, le mariage n'est pas juste une union, c'est un engagement. Que les hommes disent un engagement. Au sacrifice envers celle qui symbolise son amour et sa vie offerte à Dieu. L'amour ne se dit pas, il se démontre. C'est en la nourrissant et en prenant soin d'elle à tous égards que l'époux démontre son amour envers elle et son Dieu. En la nourrissant et en prenant soin d'elle. Mieux tu prends soin d'elle, mieux ton amour sera grand envers Dieu. En fait, pourquoi tu dois prendre soin de ton épouse? Pourquoi tu dois la rendre resplendissante et parfaite? Mais c'est pour toi le moyen que Dieu t'a donné dans la maison pour lui témoigner de ton amour, de l'amour que tu as pour lui. Quand Dieu vient et voit que la maison, tout le monde est heureux, ta femme est pimpante, Dieu dit magnifique. Là, on peut négocier toi et moi. Mais si Dieu vient, il trouve que tout le monde est malheureux dans la maison. Il dit tu es un menteur, tu es pire qu'un non-croyant, ça ne sert à rien. Tu viens nous mentir ici à l'église que tu aimes le Seigneur, mais quand tu rentres à la maison, tu ne sais pas prendre soin de ton épouse. Alléluia. Donc un mari mécontent de son épouse, qui qui décide de la répudier démontre ouvertement, Paul nous dit, qu'il ne s'aime pas lui-même. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit dans Malachie chapitre 2 verset 16 que je hais la répudiation. C'est ce que Dieu dit. Dieu dit que celui qui répudie son épouse, il dit par là qu'il ne s'aime pas lui-même. C'est pour cela que quand on parle de répudiation, quand un homme dit je ne veux plus d'elle, on a toujours tendance à tourner la caméra sur la femme. Elle n'est pas parfaite pour cet homme-là, etc. Dieu dit non, non, non. Il faut tourner la caméra sur l'homme. Un homme qui rejette sa femme, sauf pour cas d'infidélité, mais un homme qui rejette sa femme pour une quelconque raison, c'est un homme qui ne s'aime pas lui-même. Et là, je commence à rentrer dans le mystère pour terminer. Vous pensez que le mystère du mariage, c'est l'histoire de l'amour? C'est pas ça le mystère du mariage. Tu n'as pas remarqué qu'on parle plus de l'homme là? Parce que le mariage, c'est... Dis-moi, est-ce que la Bible du début à la fin te parle de l'Église? Non. La Bible du début à la fin te parle du Messie, de Jésus. Cette histoire de mariage là, c'est l'histoire de l'homme. Quand Ève avait péché, qui on a condamné en premier? C'est l'homme. C'est à lui qu'on a dit qu'il était responsable. La femme, on lui a juste dit tu auras des douleurs, etc. Mais l'homme, il a pris sérieusement. Donc cette histoire-là dont nous sommes en train de parler là ce soir, c'est une affaire d'homme. Et les femmes, il faut prier pour vos hommes. Alléluia. Si tu es avec moi, fais comme ça. La première chose sur laquelle j'ai fait le focus, c'est l'amour, n'est-ce pas? Eh bien, quand on rentre dans le mystère, et c'est là qu'on commence, vous allez commencer vraiment à vivre ce qu'on appelle le mariage. Dis avec moi le mariage. Ce qui va ressortir le plus dans le vrai mariage, c'est la capacité à pardonner l'autre. Alléluia. Regarde, Colossiens chapitre 3 dit, Marie, aimez vos femmes, au verset 19, et ne vous aigrissez pas contre elles. La version parole vivante dit, témoignez à vos épouses beaucoup d'affection. Dis avec moi affection. Ne laissez pas l'amertume ou le ressentiment envahir votre cœur et détruire votre union. Qu'est-ce que c'est que l'amertume et le ressentiment? L'amertume et le ressentiment, c'est quand elle t'a dit quelque chose ou qu'elle t'a fait quelque chose qui t'a fait mal, qui t'a énervé, qui t'a mis en colère. Et le ressentiment, c'est quand tu es comme le jeune garçon noir qu'on a vu dimanche à l'écran. Tu es fâché dans la maison, tu ne parles plus. Tu es fâché. Et pourtant, la Bible dit, ne laissez pas le ressentiment détruire votre union. Elle est là, elle sait qu'elle t'a fait mal, elle attend qu'une chose, c'est que tu lui pardonnes. Même si elle a tort, pardonne-lui. Même si elle a tort, il faut lui demander pardon. Même si elle a tort, il faut tout faire pour te réconcilier avec elle, parce que c'est toi qui es responsable de cette union. Alléluia. Pourquoi? Parce que dans le couple, qui est celui dont la colère peut détruire tout? C'est l'homme. Même si la femme se met en colère dans le couple, tant que l'homme est un homme serein, ça va. Parce que tu sais que quand elle se met en colère et qu'elle commence à s'agiter là, tu la regardes, tu recules d'un pas et tu dis, bon, comment je vais l'éduquer là? Comment est-ce que je vais la façonner pour la faire paraître devant moi belle, resplendissante et irrépréhensible? Je vois qu'elle a un problème de colère. Alors, c'est pas tu, elle se met en colère et tu réagis aussi à la colère. Non, l'homme, tu te poses et tu vois son comportement. Chérie, tu sais que tu as un problème avec la colère. Ça va pas. Mais dans la maison, si c'est l'homme qui a un problème avec la colère, tout le monde est en danger. Le navire est en danger. Parce que quand un homme est colérique, quand un homme se met en colère, oh là là! Ouh là là, parce que l'homme, quand il se met en colère, ça peut partir dans tous les sens. Hein? Ouais. Imaginez une femme qui se met en colère. De toute façon, je te quitte. Tu me quittes pour aller où? Tu vas où? Tu quittes, tu vas où? Tu es ma femme, tu restes ici. Je m'en vais. Tu vas nulle part, reste ici. Et si tu vas, tu dis je retourne chez mes parents. Quand tu retournes chez les parents, ta maman peut-être sera un peu compatissante. Ma chérie, viens d'abord. Un père, normalement constitué en Christ, va dire retourne chez ton mari tout de suite. Amen. Par contre, quand l'homme s'énerve et dit je m'en vais, oh là, il y a du souci à se faire. Parce que quand un homme dit s'en va, c'est chaud. Il abandonne complètement le navire, les enfants, la femme, tout le monde. Et quand il dit s'en va, la femme peut lui dire tu vas où? Il va dire je commence à je vais où? Je m'en vais. Que tu sois content ou pas, je m'en vais. Donc, le pardon, dis avec moi le pardon. Le pardon envers son épouse est le moyen le plus pratique et le plus manifeste chez l'homme pour démontrer le caractère de Dieu dans sa vie. La capacité à pardonner, ce que l'épouse peut faire. Et l'épouse peut faire des méchantes choses. Hein. Mais quand une épouse fait ce qu'il y a, même ce qu'il y a de plus méchant, l'homme doit lui pardonner. Pasteur, quand tu dis ce qu'il y a de plus méchant, tu es en train de dire que tu es en train de lui donner la permission qu'elle peut avoir un écart, aller voir quelqu'un d'autre. Je souhaite que ça n'arrive jamais dans ton couple. Mais si un homme découvre que son épouse l'a trompé avec un autre homme, ça le déchire comme pas possible. Et que cette épouse se rend compte que ce qu'elle a fait, c'est juste horrible. Et qu'elle vient devant l'homme et lui demande pardon. L'homme doit lui pardonner. Pasteur, là, ça devient l'hérésie ici, là, maintenant. Écoutez, bien entendu que ce n'est pas si évident que ça. Bien entendu que ce n'est pas si évident que ça. On ne peut pas faire un cas, une généralité, ok? Toutefois, c'est ce que la Bible nous dit. Car Dieu nous montre, dans tout l'Ancien Testament, particulièrement dans les livres prophétiques, il nous parle de cette église, Israël, qui sans cesse l'avait trompé. Et sans cesse, il disait, reviens à moi, je te pardonne. Cette église qui avait péché, Dieu dit, je lui pardonne. Cette humanité, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Les mêmes qui étaient sur la croix, en train de lui cracher dessus et de le frapper, ils le regardent et disent, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et toi, tu dis, quoi? Mais regarde ce qu'ils te font. Et en fait, c'est ce que les gens diront à l'homme. Quoi? Tu as vu ce qu'elle a fait? Non, papa, moi je ne peux pas lui pardonner ce qu'elle a fait. Elle te regarde et elle te dit pardonne-moi. Et toi tu es là, jamais je vais te pardonner ce que tu m'as fait. Mais tu entres dans le mystère du mariage quand la dimension du pardon divin commence à être manifestée. Le pardon divin, c'est cette capacité-là à aller au-delà des événements et la regarder comme l'église et lui dire je te relève, tu es tombé, je te relève. Acclame le Seigneur. Il y a un silence religieux là. Vous méditez. Je ne suis pas en train de dire que ça ouvre une porte à aller faire. Non, non, non. Ce n'est pas ce que je suis en train de vous enseigner là. Je suis en train de vous dire que quand vous avez en face de vous un couple où c'est la femme qui a déconné, hein, l'homme a pour responsabilité. Soit il choisit de mettre un stop à tout et on repart de zéro, s'il n'en a pas la force, ou s'il a la force, ou il a le Saint-Esprit, il va prier. Parce que je connais des couples où c'est arrivé, où l'homme a dû accepter et pardonner. Et je peux vous assurer que ce n'était pas facile. Hein. Ouais. Ce n'était pas facile. Je connais un couple en particulier, ce n'était pas facile du tout. Alléluia. Donc malgré les défauts, les erreurs de son épouse, l'homme démontre la divinité de Christ dans la vie par sa patience envers elle et en l'acceptant comme elle est. Par le mariage, le mari s'engage par amour à laver son épouse de ses imperfections, lui pardonner ses erreurs et la changer pour ce qu'elle devienne, pour qu'elle devienne l'épouse parfaite qu'il désire. Attention, il y a des filles qui sont des bandites. D'accord ? Je ne suis pas en train de dire qu'il faut pardonner tout. On ne pardonne pas toutes les bêtises. Ok ? Mais à partir du jour où vous avez choisi de vous marier, vous êtes marié pour le meilleur et pour les moments difficiles aussi. Mais pourtant, ce même Jésus à qui on est venu mettre la lance sur le côté, il a vu, on lui crachait dessus, il a vu qui le frappait. Car la Bible nous dit dans Matthieu que les soldats romains le frappaient. Boum, et il disait, qui t'a frappé? Qui t'a frappé? Boum, qui t'a frappé? Qui t'a frappé? Parfois, l'épouse se comporte comme ça. Dans la maison, il te fait des trucs bizarres. Et quand tu découvres le scénario, tu fais, ah, tu es méchante, hein, ce que tu m'as fait. Pourtant, à la fin, il te dit, je ne savais pas ce que je faisais. J'étais possédé d'un esprit de séduction. Pardonne-moi. Tu fais, ah, non, ce que tu m'as fait là. Les mensonges que j'ai découverts, etc. Non. Pourtant, quand tu vas devant Dieu, tu dis, Dieu, qu'est-ce que je fais? Dieu dit, c'est ta femme. Celle que tu dois présenter devant toi, irrépréhensible, sans tache ni ride, parfaite. Dieu, je ne peux pas, je recommence zéro. Il fait, c'est ton choix. À toi de voir. Mais sache une chose, si tu décides de partir, celle que tu vas aller chercher, elle n'est pas parfaite non plus. Hein? Je te le dis. Dis avec moi le mystère du mariage. Et enfin, la dimension spirituelle. Pas besoin de faire un tableau très très longtemps là-dessus. Eh bien, vous l'avez compris, Paul nous dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela à cause de la relation qu'il y a entre Christ et son Église, du reste, que chacun aime sa femme et que la femme respecte son mari. Ce mystère est grand. C'est là maintenant qu'on rentre dans le mystère. On rentre dans le mystère parce que tout simplement, le mariage, les deux deviennent un. Les deux deviennent une seule chair. Et quand les deux deviennent une seule chair, cette femme que tu aimes là, en fait, c'est toi-même. Et en fait, cette femme, quand tu vois qu'elle a fait la bêtise, tu te dis, mais en fait, c'est moi qui ai fait la bêtise. C'est à cause de moi, en fait. S'il y a bien une chose qui caractérise les grands leaders, c'est la capacité à prendre la responsabilité sur eux. Tu es dans la maison, tu vois comment la femme a fait la bêtise, et puis tu t'apitoies sur toi-même en disant, c'est de ma faute. Donc, je dois la corriger. Car c'est mon enseignement certainement qui n'a pas été bon. Je dois l'éduquer autrement pour qu'elle ne recommence pas. Dis avec moi le pardon. L'union du Christ et de l'Église, dit dans la version parole vivante, dont la réalité humaine n'est que le symbole. Donc ton mariage là, ce n'est qu'une représentation visible, physique, de la relation de Christ et son Église. C'est facile de lire la Bible et de clamer haut et fort, oui, Jésus-Christ a pardonné à son Église, Jésus-Christ nous a pardonné, etc. Oh Jésus, à la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Quand il s'agit de ton mariage là, quand elle vient devant toi, chérie, à la croix je me prosterne. Quand elle se prosterne là, Dieu n'a pas fait, quitte-la. Non, Dieu l'a prise et Dieu l'a relevée. Et c'est ce que l'époux doit faire. Et quand un homme fait ça, il ressort de là grandi. Grandi. Car le pardon, non seulement ça libère, mais le pardon, ça amène à la maturité. Alléluia. Oh, 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 oh. La dimension spirituelle, l'époux et l'épouse deviennent une seule chair. Et quand ils dépassent la chair et ses manquements pour embrasser la dimension spirituelle du mariage, Christ unis à l'Église, quand ils entrent dans cette dimension, là, ils commencent vraiment à expérimenter le vrai mariage. Car le mariage ne se limite pas juste au sexe ou à se dire, bébé, je t'aime, etc. Non, vous allez commencer à vivre le mariage quand les problèmes vont arriver. C'est dans les problèmes, c'est dans les moments de crise que l'on voit la grandeur d'une personne. C'est quand il y aura des moments de crise que l'on va voir la grandeur de votre couple. C'est pas quand tout va bien. Quand tout va bien, on peut rien voir. C'est quand il y a les problèmes que l'on voit si vous êtes grand. Si vous êtes un couple modèle. Comment vous allez ressortir de cette crise, de cette situation? Si vous ressortez de là avec le pardon, vous serez capable d'enseigner aux autres demain comment on fait. pour traverser les moments de crise. Mais si vous décidez de vous séparer, qu'est-ce que vous nous avez enseigné? Rien du tout, si ce n'est qu'on peut se séparer. Le mariage commence à être vécu dans la dimension spirituelle quand l'époux quitte père et mère de ce monde pour s'unir à son église, l'épouse. Le père et la mère ne représentent pas seulement le père physique, mais représentent aussi tous ceux qui peuvent être une source de bonheur pour lui. Il décide de tout abandonner pour cette femme-là. Alléluia. Les époux commencent à vivre le mariage quand l'union dans la chair est vécue dans la foi, nous dit la Bible, en l'union de Christ et de son Église. Car quand tu regardes cette femme, tu la regardes avec l'esprit, avec la foi, en te disant que on est là ensemble pour toute la vie. Par la foi, j'ose croire en Jésus-Christ que tout ira bien. Et s'il y a des tempêtes, on tiendra. Parce que quand tu es devant le maire, en train de la regarder dans les yeux, oui, je déclare et je décrète. Non, tu ne dis pas ça devant le maire. Oui, je m'engage, etc. à rester avec toi, à t'aimer tous les jours de ma vie, pour le meilleur et pour le pire, à t'être fidèle. Quand la tempête arrive, non, tu démissionnes. Non. Mais c'est quelle confession de foi que tu as faite alors? Tu t'es engagé à la supporter, à rester avec elle. Tu t'étais engagé. Alléluia. Amen. Matthieu, chapitre 18, verset 19 dit, je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée. Ça, pour en arriver là quand vous êtes en couple, il faut rentrer dans la dimension spirituelle. Il faut rentrer dans le mystère. Allez, amen. Est-ce que le pianiste peut déjà commencer à jouer, s'il te plaît, Luc? Alléluia. Il dit, s'ils se mettent d'accord ici-bas pour demander quoi que ce soit dans la prière, cela leur sera accordé par mon Père Céleste. Deux personnes mariées peuvent demander n'importe quoi à Dieu et être sûr qu'il va le leur donner quand ils sont maintenant connectés dans l'esprit, les deux. C'est-à-dire, vous avez des couples où c'est comme si on dirait, ils ne peuvent plus se disputer. Ils sont tellement un. Mais pour en arriver là, il y a un parcours. Ils sont passés par des moments où ils ont appris à se connaître dans la chair. Et ils ont appris à s'unir dans la chair. Et quelles que soient les difficultés, quels que soient les défauts que l'un et l'autre a, on a décidé de s'accepter tel que l'on est. On se pardonne, on se connaît, on est unis. Et là, quand on en arrive là, quel que soit ce qu'on va demander à Dieu, Dieu va nous donner. Dieu va nous donner. Et beaucoup de couples, regarde, Jésus-Christ a dit, on ne prend pas du vin nouveau pour le mettre dans de vieilles outres. Sinon, les outres vont se perdre. Beaucoup d'entre nous, on veut prendre le vin nouveau, cette présence du Saint-Esprit-là, cette grâce-là qu'on appelle le mariage, et on veut venir mettre ça dans de vieilles outres. Les vieilles outres, c'est notre vieil homme, c'est nous-mêmes. On prend le vin nouveau, on prend le mariage, on le met dans les outres, on entre dans le mariage, et quand les outres sont sur le point de se briser, c'est là où tu dois tenir. Attacher ta ceinture pour que le Saint-Esprit vous restaure et qu'ensuite, à la fin du mariage, le maître du banquet dise « Mais je ne savais pas qu'on pouvait garder le vin jusqu'à la fin de l'événement. » Parce qu'en cours de route, il y en a, les outres se perdent et le vin se perd. Mais ton travail à toi en tant qu'homme, c'est de faire en sorte que ça ne se brise pas et que ça reste debout. Alléluia. Amen. Oh, le mystère du mariage, vous l'avez compris, c'est cette capacité-là à pardonner, à s'accepter l'un et l'autre. Regarde ce que dit la Bible. Ésaïe 54, verset 4. Ne crains pas, car tu ne seras pas confondu. C'est Dieu qui parle. Ne rougis pas de ta bêtise, de ce que tu as fait, car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Quelques instants, je t'avais abandonné, mais avec une grande affection, je t'accueillerai. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur, l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Qu'est-ce que le Seigneur a voulu nous enseigner aujourd'hui? Avant que l'on rentre dans le vif même du sujet, ce que le Seigneur voulait que l'on comprenne, c'est cette capacité à pardonner celui qui est avec nous. Car sache que la personne avec qui tu choisis de te mettre demain, ou celle avec qui tu es aujourd'hui, elle n'est pas parfaite, cette personne. Tu vas devoir l'accepter avec ses défauts et tu vas devoir lui pardonner. Quand on parle du pardon, ça ne va pas seulement dans le sens de l'homme qui doit pardonner la femme. Certes, c'est lui qui a la plus haute responsabilité, mais la femme aussi a ce rôle-là aussi, d'accepter aussi les défauts qu'il y a chez l'autre. Elle est cette aide-là qui doit l'aider à grandir. Mais quand la tempête va souffler, celui qui sera le maître du bateau à bord, c'est l'homme. Si tu es un homme et dans votre couple, c'est plutôt elle qui tient la barre, c'est à toi de prendre la barre, car ce n'est pas elle le chef du foyer, c'est toi le chef du foyer. Et quand la tempête va souffler, vous devrez vous pardonner. Parce que vous entrez dans le mystère du mariage quand le pardon entre. On expérimente le vrai mariage en Christ quand il y a pardon. L'union de Christ et de l'Église s'est faite à la croix. C'est à la croix que Jésus-Christ est mort, que le Père a regardé et le Père a dit, c'est bon, je te donne l'humanité, mon fils. Car tu m'as démontré l'amour que tu avais pour cette humanité au point d'aller mourir, te sacrifier pour elle. Alléluia. Est-ce qu'on peut commencer à prier, à élever nos voix et à rendre gloire à notre Dieu? Je voudrais qu'on élève nos voix. À ceux qui ne sont pas mariés, demandez à Dieu de vous donner un cœur qui vous préparera à expérimenter le mystère du mariage. Et que quelle que soit la personne que le Seigneur vous enverra, demandez au Seigneur de vous donner ce cœur-là qui vous permettra de l'aimer tel qu'il est, tel qu'elle est. À ceux qui sont mariés, demandez au Seigneur de vous donner la capacité d'accepter votre conjoint comme il est et d'arrêter de lui faire des reproches. Et je parle particulièrement aux hommes parce que ce soir, le Seigneur voulait beaucoup s'adresser aux hommes. Que les hommes apprennent à pardonner leur épouse. Qu'ils sachent que leur responsabilité, c'est de faire paraître cette épouse devant eux. Parfaite, irrépréhensible, irréprochable, sans tache ni ride. C'est votre rôle d'en prendre soin, de consacrer du temps, votre cœur, votre argent, votre énergie pour que cette épouse grandisse. C'est votre responsabilité. Les épouses, soyez soumises à vos époux. Soyez sous sa mission. Soyez obéissantes. Soyez compatissantes. Soyez patientes. Soyez soumises, car votre place est à côté de lui. Pas devant lui, à côté de lui. Car c'est en restant à votre place, en gardant votre position, que vous serez heureuse. Car tout simplement, le mystère du mariage, c'est ce mélange-là, cette association entre la soumission et l'amour. Et la soumission et l'amour, c'est le symbole même de l'agneau. Jésus-Christ a été appelé l'agneau de Dieu. L'agneau est symbolisé par la soumission et l'amour. La soumission et l'amour, c'est le mélange parfait de la volonté de Dieu.
Rien n'est semblable à ta grâce qui m'a sauvé. que je suis, je viens à tes pieds.
À tes pieds, Seigneur.
Humblement, je me tiens devant ta majesté. En toi, je sais que j'ai tout trouvé. Dans ton amour sans fin.
Sans limite.
Ton amour, sans
ton amour est l'amour du pardon, Seigneur. Nous te rendons gloire pour la révélation de ta parole. Restaure ce qui doit être restauré. Aide les épouses à être soumises et les maris à aimer, Père de grâce. Fais de grandes choses au milieu des couples et glorifie ton nom, Père de grâce, dans les mariages. Que l'honneur, la gloire, magnificence et le règne te reviennent maintenant et à jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que quelqu'un dise Amen. 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 Et acclame le Seigneur. Alléluia.
Espérons que vous avez été richement édifiés par cet enseignement. Pour plus d'informations au sujet de l'église La Maison du Bâtisseur, vous pouvez vous rendre sur notre site internet www.lamaisondubâtisseur.com. Si vous désirez avoir d'autres produits enregistrés à La Maison du Bâtisseur, vous pouvez soit commander directement en ligne ou téléphonez-nous au 04 65 60 56 ou envoyez-nous votre demande par email à l'adresse suivante contact@lamaisondubâtisseur.com. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.